Ça y est, nous y sommes. Les athlètes sont prêts. Prêts à nous captiver. Prêts à repousser les limites pour atteindre l'impossible. Prêts à battre de nouveaux records qui résonneront dans l'histoire. Et nous serons avec eux dans les joies et les peines. Nous sommes là à chaque étape. Start your impossible. Dépassez l'impossible. Toyota, partenaire mobilité officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Flora Musti.
Il est 14h57. Salut à tous. C'est parti pour votre après-midi foot sur RMC. On vous accompagne jusqu'à 17h. Après, ce sera Benoît Boutron pour le Multi-Ligue 1 avec Sébastien Piocel. Mais la journée de Ligue 1 démarre dans quelques instants avec le premier match entre Auxerre et Nice. Coup d'envoi à 15h. Match qu'on va suivre avec Coach Courbis. Salut mon coach.
Salut les amis et salut à tous.
Nice version francaise hein, désormais cette saison. Beaucoup d'absents pour des Niçois malgré tout ambitieux face au promu Auxerrois champion de Ligue 2 qui vont tout faire pour se maintenir cette saison. Et on va aller tout de suite retrouver la douce voix de Fred Joly à la Baie des Champs. Salut Fred.
Salut tout le monde. Bonjour Flora.
Ça va partir dans quelques instants, dans deux minutes maintenant, pour cette rencontre, je le disais, entre les Niçois version francaise. C'est un petit peu l'attraction aussi hein, du jour. Hein. Première difficile. D'ailleurs, tu vas nous rappeler les compos parce qu'il y a beaucoup d'absents, notamment pour les Niçois.
Et toi aussi, tu retrouves la Ligue 1.
Hein. Ouais, oui. Une petite année de Ligue 2 pour me remettre les idées en place. Et puis hop, me revoilà en Ligue 1. Le retour. Ouais, c'est vrai que le pauvre francaise pour ses grands débuts sur le banc niçois, pas trop de chance. Hein. Il y a des absents. Alors, il va y avoir. Je ne sais pas si ça va être une minute de silence ou une minute d'applaudissement. Un hommage à quelqu'un que coach a dû connaître, hein, Cédric Dory, entraîneur puis directeur sportif à la JO Auxerre. Hein. Grand bonhomme, hein, coach. Hein.
Ah bah oui.
Minute d'applaudissement.
Passionné et compétent.
Passionné, voilà, t'as bien résumé. Passionné, compétent. De 2016 à 2021, il a été à la JO Auxerre, il a été entraîneur puis directeur sportif. C'est lui qui a fait venir des garçons comme Joubal, Perrin ou encore Hein. Et puis il a fait l'intérim hein, quand Moldovan avait été débarqué, quand Correa était débarqué, il avait fait un peu l'intérim à la JO Auxerre. Un grand bonhomme qui aimait vraiment le football et qui a laissé son empreinte à la JO Auxerre et le public et les 15 à 16 000 spectateurs présents. Lui rendre hommage avec cette minute d'applaudissement. Pour revenir au match, alors que le public est debout et que tout le monde applaudit, effectivement, on le disait, du côté de Francaise, c'est un peu le casse-tête avec 7 absents. Mofi, Boga, Diop, Loucher, Lotamba, Sanson, Bard est suspendu. Il a fallu composer avec les moyens du bord, comme on dit. C'est pour cette raison qu'on a fait, du côté du coach niçois, fait redescendre Rosario, le milieu de terrain, en défense centrale. À ses côtés, il y a Mendy, jeune garçon formé au club. À droite, Dante à gauche, Mulcahy dans les buts, un milieu à 4 avec Brahimi, Boudaoui, Ndombele que l'on va découvrir du côté de l'OGC Nice, Klose qui était légèrement blessé mais qui est bien présent, puis devant trois garçons, Laborde à gauche, Chaud à droite, Guessant à droite du côté de la JO Auxerre, alors que le coup d'envoi vient d'être donné à l'instant même du côté de la JO Auxerre. Eh bien, c'est quasiment du classique puisque Léon est dans les buts. Joubal est dans la charnière centrale à côté d'une recrue, Ocho, ce jeune garçon, Gabriel Ocho, 25 ans, qui arrive de Luton dans la charnière centrale. Akpa est titularisé à gauche puisque le Mensah, le latéral gauche, est blessé. Joly est à droite. Rabelson, Owuzu à la récupération. Ado Onaewu à gauche. Sinayoko à droite. Perrin en soutien de Bear. Autre recrue, Théo Bert, qui est international canadien, qui nous arrive d'Écosse. Et puis évidemment, coach, tu vas nous dire ce que t'en penses. Le départ, il y a deux jours seulement, de Hein pour Metz. Je pense que ça t'aurait pas fait rire toi non plus quand tu fais une préparation qu'à deux jours du début de championnat, t'as un de tes meilleurs éléments qui dit, non, finalement, je quitte le club.
Mais si tu veux, je pense pas quand même que ça a dû se régler ça dans les 48 heures. Donc ça devait être quelque chose, en coulisses. J'ai essayé un petit peu de me renseigner et c'est vrai que c'est pas seulement un départ, c'est un retour à Metz avec justement un contrat de 4 ans. Un garçon qui est attaché à son club,
il
est
formateur.
À son club formateur, il est plus attaché à Metz qu'à Auxerre. Et là, c'est vrai que c'est surprenant. C'est vrai qu'on aurait pu s'en passer du côté d'Auxerre et régler ça plus tôt. Mais bon, ce que je regarde aussi, c'est que du côté de Metz, on n'a pas dormi. Et si par exemple Metz devient maintenant l'un des favoris, pour ne pas dire même le favori de cette Ligue 2, c'est justement avec cette arrivée.
Exactement, ce garçon. Christophe Pélissier le disait vendredi matin en conférence. Lui, il a été un petit peu surpris, hein, parce qu'il avait quand même travaillé. La préparation s'était faite avec Hein dans le 11 de départ. Là, il a fallu revoir un petit peu tout. T'es un petit peu agacé, hein, quand même, par la façon dont s'est fait ce transfert, même si ça fait un an, effectivement, un coach que ça traînait dans les tuyaux.
Il y a, si tu veux, à la tête de ce club, des personnes qui sont aussi compétentes que discrètes. Moi, j'ai le plaisir de connaître Bernard Serin, entre autres. Arpinon, donc il y a quand même des gens qui sont très compétents et pourtant ils sont très, très, très discrets.
Avec donc ce coup d'envoi qui a été donné il y a 2 minutes 30 et le premier, le ballon dans les pieds de Ocho, l'une des recrues auxerroises, des Auxerrois donc qui joue avec un brassard noir en hommage évidemment, avec cette longue transversale, c'est beaucoup trop sur Boulka, le gardien de l'OGC Nice, un ballon qui est venu quand même dans la surface de réparation, mais il n'y avait pas vraiment danger. On a senti que du côté de l'Adagio aussi, on était peut-être plein de bonne volonté, mais il va falloir s'appliquer un peu plus.
J'ai l'impression que c'est clair et net. Il n'y a pas besoin d'embaucher un détective pour avoir compris que l'organisation de Nice, c'est l'organisation de A à Z de Lens.
C'est ça.
Ouais, en même temps, oui.
On évolue avec
et, ouais, il fait aussi avec ce qu'il a aujourd'hui. Évidemment, tu l'as rappelé, Fred, et je pense qu'il doit s'en tenir à ses fondamentaux pour recréer un projet ici à Nice.
Oui, avec un 3-4-2-1, Dante, on le disait, Rosario et Mendy, et puis Klaus à droite et Brahimi à gauche qui vont faire les pistons comme ça sur les côtés, et Ndombele, l'une des recrues niçoises, et Boudaoui plus chargé de la récupération. Effectivement, ça ressemble vraiment à du schéma Madine Francaise.
Donc lui-même, peut-être même par moment, il doit se tromper de nom, tu sais, en discutant avec les joueurs.
C'est ça, il les appelle par les anciens prénom. Ah mais ça s'appelle pas comme ça celui-là, mince. Avec peut-être le débordement sur le côté gauche. Voilà qui est fait. Sinayoko, c'est bien joué du côté de la défense des Oiseaux. Ça revient sur Sinayoko, mais il y aura une faute. Il s'est un petit peu même carrément débarrassé du défenseur niçois. La faute immédiatement sifflée par Romain Lissorg, l'arbitre de cette rencontre.
C'est un joueur intéressant, ce Sinayoko, quand même.
Il est incroyable.
Parce qu'en plus de ça, bon, il peut permuter de la droite vers la gauche, vice-versa. C'est un des garçons qui va donc progresser avec cette année en Ligue 1. Mais je le vois énorme. Je le vois progresser aussi, mais ça fait rien. Je le trouve très, très, très intéressant.
Et quand il est revenu de la CAN, c'était incroyable. Il était complètement métamorphosé. Ça lui a amené une confiance exceptionnelle. Et on s'est dit, franchement, ce Sinayoko, beaucoup de joueurs, ils viennent de la CAN un peu fatigués ou un petit peu usés et tout. Lui, pas du tout. Ça l'a fait revenir complètement survolté. Et comme tu dis, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer en pointe, il peut jouer en 9,5. C'est des joueurs comme ça, quand on en a, faut les garder, hein.
Et là, tu as des échos sur le remplacement de Hein?
Non, justement, là on est en train de travailler.
Alors, tout le monde a été pris de court un petit peu. Hein.
Ouais, tout le monde. Alors, bizarrement, du côté de Christophe Pélissier, on est plutôt se tourner vers un recrutement défensif, car c'est vrai que derrière, il y a Joubal et il y a l'une des recrues, Gabriel Ocho. Sinon, il y a Agouzoul également dans l'axe. Mais voilà, attention, peut-être la première occasion niçoise, la frappe
dans le but.
Il aurait pu frapper.
C'est mal joué, ça.
C'est très, très mal joué.
Il se
la contrôle pour lui-même, ça devient un penalty.
Oui, il a le temps en plus. Il a le temps vraiment de frapper. Ouais, pour revenir au recrutement, on est plus tourné vers un recrutement défensif. Alors évidemment, ça va changer la donne du côté de Christophe Pélissier. On va sans doute vouloir se tourner vers un recrutement vers un joueur au milieu offensif parce qu'il y a Perrin, mais bon, il y a Perrin, il y avait Perrin et Hein la saison dernière. Oui. Est-ce que Perrin sans Hein, coach, ça sera la même chose, on se le demande.
Mais ça, c'est un grand point d'interrogation.
Ouais, exactement. Donc Perrin qui se retrouve dans le titulaire juste derrière l'attaquant Auxerrois Bert, qui n'a pour l'instant pas eu beaucoup de temps.
C'est bon, c'est difficile de le juger. Bon, je parle même pas de tout le match et d'aujourd'hui, mais c'est sûr que cet attaquant et son intégration et son niveau, c'est très très important pour le niveau d'Auxerre.
Théo Bert qui canadien jeune joueur de 24 ans 1m91
la relance
la relance un peu hasardeuse, ça a surpris tout le monde, même les Auxerrois je pense.
Ouais, justement ils n'ont pas su en profiter.
Ouais, mais ils prennent des risques. Alors je sais que ça te plaît moyennement ça coach, hein, prendre du temps pour relancer, repasser par le gardien.
Pas moyennement. ça me déplaît abominablement.
C'est à dire que c'est prendre beaucoup de risques pour pas grand chose. La Boulka il se met en danger forcément, et après les Auxerrois lui ont bondi dessus un peu. Alors heureusement pour lui, avec pas beaucoup de réussite, mais c'est vrai que c'est risqué quand même à chaque fois.
Hein. Non, puis si tu veux, après chacun son avis, le football il est passionnant, justement parce qu'on peut en discuter des heures sans savoir qui c'est qui a raison. Mais moi,
oulololo, comme tu dis, coach.
Oh, les Niçois dans la surface là.
Ah, c'était panique à bord. Hein. On n'a pas trop su comment s'en sortir. Léon était un petit peu surpris. Mais savait pas trop s'il fallait y aller ou pas finalement. Dégagement il était laborieux, mais il fallait le faire.
Et donc si tu veux, pour aller l'empêcheur de tourner en rond que je suis ou que je pense être peut-être, donc je pense qu'il faut poser la question au coach qui demande à leurs joueurs de repartir depuis derrière et surtout depuis derrière. Qu'est-ce que ça leur apporte comme but dans la saison et qu'est-ce que ça leur apporte comme but contre leur équipe, cette idée-là.
Est-ce que c'est quoi ? C'est faire sortir un peu les attaquants, les faire monter au pressing pour, si tu passes la première ligne, avoir un petit peu d'espace derrière
Oui, d'accord, mais bon, de là...
Moi, j'essaie de le comprendre, je suis pas fan non plus.
De là à faire une passe qui passe à 50 cm d'un adversaire, ou des fois tu la donnes à un adversaire, sincèrement, je trouve ça... Tant mieux pour ceux qui le trouvent. Déjà, je trouve ça stupide.
Le centre de Joly, ce sera le pied. Heureusement pour l'OGC Nice de Mendy qui écarte le danger, mais pas assez loin. La frappe la frappe de Sinayoko. Oh, elle a fait peur celle-là, elle est passée.
Un enchaînement surtout.
Il s'est pas posé de questions. Hein. Il a fait gauche droite boum.
Il a un peu raté son tir croisé. Et s'il le rate un peu plus, ça veut dire qu'il le croise un peu plus, ça aurait pu faire une passe.
Oh. Ah oui, c'est vrai que c'était bien tenté, bien essayé, mais effectivement, peut-être un peu trop passé.
Jonathan Clauss, là, il a pas compris où était passé le ballon, presque entre ses jambes d'ailleurs. Ouais.
Il est un petit peu surpris par la récupération auxerroise. Les Niçois qui sont en possession du ballon. Brahimi sur le côté gauche qui est obligé de revenir en arrière. Toujours cette construction. On avance lentement, doucement du côté de l'OGC Nice avec cette balle dans le pied de Dante qui n'a pas trop de solution. Il va là tranquillement glisser juste à côté pour Rosario qui a été replacé en défense centrale. Lui qui est plutôt milieu récupérateur. Et vu le nombre d'absences du côté de l'OGC Nice, on est obligé de faire redescendre des garçons d'expérience. C'est un garçon d'expérience comme Rosario pour pallier aux absences niçoises. Et il y aura une faute. Perrin qui n'est pas trop d'accord suite à cette faute sifflée sur lui, faute sur Guessant, mais le coup franc est bien pour l'OGC Nice. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on arrive vraiment à s'approcher du but adverse, même s'il y a eu quelques instants cette propre serroise qui a été trop croisée, qui est passée devant le but de Bulquin, le portier niçois.
Ouais, puis il y a eu cette attaque de Nice qui a été très mal jouée. Sinon, bon, un bon contrôle pour soi-même. Et on aurait vu un tête-à-tête avec le gardien. Mais allez, on va quand même pas se décourager.
Allez, il y a un beau corner là.
Avec beaucoup de joueurs absents. Donc, allez, soyons indulgents.
Oui, et c'est la première journée, coach. C'est la première journée, souvent, c'est laborieux. Hein.
Absolument.
Donc, faut pas s'attendre à des miracles.
Bon, il y a Marseille qui a cartonné. On en parlait d'ailleurs avec coach. On peut espérer quand même un petit peu.
Mais ils ont cartonné de la manière.
Et Brest qui s'est fait cartonner.
Oui, à l'inverse, ouais.
Ce qui est quand même surprenant aussi.
Avec ce corner qui a vraiment très mal été très mal joué. Franchement, il était mal tiré. La récupération de Ravelosson qui va pouvoir glisser sur Ado Onaiwu sur le côté gauche. Il a pas trop d'espace, il est obligé de revenir. Ça manque un petit peu de rythme pour l'instant. Peut-être la longue, très longue ouverture vers le pied, le contrôle parfait de Perrin qui va pouvoir. Il y a l'appel sur le côté. Voilà, c'est bien joué sur le côté. Sinayoko le centre, c'est devant le but. Oh, c'est mal centré, c'est complètement manqué de la part Sinayoko.
Tu vois ce genre de centre, c'est un centre raté, mais c'est pas le centre qui pour moi est raté en premier, c'est l'endroit d'où le joueur centre et évidemment les déplacements devant devant le but. Géométriquement, si tu réfléchis, c'est le mauvais endroit pour centrer.
Tu faisais des schémas géométriques à tes joueurs, coach?
Ah ben oui.
C'est la base.
Celui qui s'entraîne de cet endroit-là,
il veut plus.
Ben, sincèrement,
il allait revoir sa géométrie pour un moment.
Il n'avait pas les félicitations.
Il prenait un carton rouge.
Mais voilà. On voit quand même, Fred, coach, qu'il y a quand même des espaces dans la défense niçoise. On voit que les attaquants serrois en profondeur ont des possibilités, mine de rien.
Oui, mais bon, il y a des changements d'entraîneur, il y a des changements d'organisation.
Il y a des absents aussi, défensivement pour Nice.
Et là, bon, il y a 7 à 8 absences importantes, ce qui est énorme. Donc que les Niçois soient moins solides que la saison dernière, ça serait le contraire qui ne serait pas normal.
Ouais, avec le centre de Joly qui n'est pas arrivé, il va pouvoir peut-être avoir une seconde chance. Oh non, c'est manqué la passe de Perrin. Il a voulu remettre sur Joly sur le côté droit. Finalement, c'est une balle qui sort en touche. Joly qui a voulu mettre un centre rentrant. Dans l'idée, c'était pas mal vu, mais peut-être pas assez puissant. Et ça a pu être intercepté par la défense niçoise qui bénéficie d'une touche. Alors, on revient un petit peu au principe de la JOC en Ligue 2 la saison dernière avec des pistons. Joly à droite. Normalement, il y a Mensah à gauche, mais il est blessé au mollet et ça va durer un petit bout de temps. C'est donc Kakpa qui fait l'intérim, qui va peut-être faire l'intérim pendant quelques temps. Coach, c'est un peu ça qui a fait la force de la JSR l'année dernière, c'est que les pistons, les latérales droits étaient également des vrais ailiers de débordement.
Ah oui, non, mais c'est sûr que l'équipe de la saison dernière était très équilibrée, c'était vraiment l'équipe pour monter.
Ouais, c'est joueurs qui savent déborder. D'ailleurs, je crois que Joly, qui est latéral droit, a terminé à 8 passes décisives. C'est pas mal pour un latéral droit.
C'est énorme.
C'est quand même énorme. Il était quasiment dans tous les bons coups et il a prouvé qu'il savait faire. Il savait le faire. Ça fait partie des garçons que Christophe Pélissier s'est attaché à garder. Hein. Même comme on le disait, hein, c'est jamais évident de décider qui on va garder ou pas. Et il disait que lui, les meilleurs recrutements, c'était déjà de garder l'ossature. Ouais. Bon, pour l'instant, il n'y a que un qui est parti. Et ce n'est pas terminé du côté du mercato, malheureusement. Avec les Niçois toujours en possession du ballon, on peut pas dire que pour l'instant on vive 14 minutes.
Il y a pas un rythme
passionné.
Effréné.
C'est ça.
Tu voilà, il y a quelques incursions à droite à gauche. Voilà, mais c'est vrai que comme le disait coach aussi, on parlait de ces absents côté Niçois. Là, je vois Brahimi qui est dans ce poste un petit peu de piston gauche aussi, qui est pas le sien de base. Il faut aussi composer avec tout ça, coach. Hein.
Mais oui, mais bon, il peut y jouer. Et quand tu as une organisation à trois arrières centraux, Klos, piston droit, et Brahimi, piston gauche, en Ligue 1, j'ai déjà vu pire.
Ouais.
Avec ce ballon récupéré dans les pieds des Océanois, c'est Joubal vers Ocho qui glisse devant. Le contrôle,
Le contrôle, d'accord, mais la passe aussi.
Hein. La passe est forte, mais le contrôle est un petit peu. Enfin,
absolument.
Les deux sont en cause dans l'histoire.
Absolument.
Donc, du coup, ça va bénéficier aux Niçois, car on s'est aidé, on a marché sur un pied niçois, le coup franc à suivre pour l'OGC Nice. Qui va, alors on est bien loin, on est près du rang central, on est bien loin du but de Léon qui a été confirmé en tant que gardien numéro 1 dans les cages auxerroises après l'excellente saison réalisée la saison dernière. Voilà, du côté de Christophe Pélissier, on l'a dit, quoi qu'il arrive, on va le garder. On parlait d'un retour éventuel de Radou, hein, qui avait fait une saison lorsque l'Auxerre était en Ligue 1 il y a deux saisons. Et bien non, on a dit que ce serait Léon le gardien titulaire avec les Auxerrois qui font tourner cette balle et on revient sur Akpa, celui qui remplace Mensah sur ce côté gauche de la défense auxerroise. Joubal, ce qu'on peut dire, coach, c'est qu'il n'y a pas trop de mouvement, pas trop d'appels et c'est difficile de trouver des solutions.
Ouais, oui.
Ouais, là, on voit encore une passe qui arrive en touche pour les Auxerrois. C'est compliqué, il faut que ça se mette en place. C'est les 15 premières minutes d'une nouvelle saison aussi. On le disait, c'est toujours particulier. Comment tu les abordais, toi, coach, ces premiers matchs de la saison? C'est déjà exigeant avec tes joueurs
Ça dépend justement de l'effectif que tu as.
Ouais.
Si par exemple, tu es l'entraîneur d'Auxerre, que tu viens d'avoir la satisfaction de monter, que tu as, si tu veux, 7 à 8 changements avec tu sais la différence que je fais entre une recrue et un renfort, et que tu t'es renforcé. Là c'est pas le cas d'Auxerre. L'équipe d'Auxerre, elle est quoi, là, cette équipe? À 80% celle de la saison dernière?
Là sur le terrain, ce qu'on a comme recrue, c'est Ocho, le défenseur central, et puis l'attaquant Bern sur la pelouse, là pour l'instant,
il faut que tu t'occupes du match contre Nice, mais il faut que tu t'occupes aussi du niveau de la première division. Et là, les Auxerrois, ils sont quand même conscients, et d'ailleurs je l'ai entendu, et c'est Pélissier, je crois qu'il a dit que dès aujourd'hui, je dis pas que tu joues le maintien, mais presque, en plus avec les intelligents qui ont fait passer les 20 clubs à 18, c'était pour que tu t'angoisses un peu plus, tu vois, qu'on est passé de 20 à 18. Moi, je serais passé même à 16, tu vois, pour emmerder tout le monde.
Ah oui, carrément.
Ah ben oui, comme
autant
ça.
Autant y aller jusqu'au bout, hein.
Comme ça, on s'emmerde plus, là.
C'est sûr. Et c'est vrai que l'année où la JOCR est redescendue après avoir végété 10 ans en Ligue 2, remontant en Ligue 1, bim, boum, c'est l'année où 4 clubs descendent. Comme ça, ça n'avait pas rangé les choses. C'était vraiment pas de bol. Oh, ce centre, Baird, il s'était légèrement reculé pour tenter de récupérer cette balle, l'accélération.
Il fait mal.
Baird, il a manqué deux crampons, là. Franchement, il s'était. C'était bien jeté pour tenter de mettre le pied en opposition. Ah, c'était un semblant d'occasion. Ça, c'est du. Le coach, ça, c'est de l'attaquant du renard de surface. Il peut faire du bien, la JOCR.
Allez, on retourne te voir tout de suite pour le corner. On fait juste l'arrivée du quintet sur l'hippodrome de Deauville avec Frédéric Kita. Salut Fred.
Salut Flora, salut Roland, salut à tous. Effectivement, c'est le quintet avec l'As Cambronne, le favori qui est en tête devant le numéro 11 à Central Park West. Le numéro 6, Vent Contraire, est en troisième position. Ils sont à peu près à 500 mètres de l'arrivée. C'est toujours l'As Cambronne qui a la tête avec Michael Barzalona, son jockey, qui a la tête dans la troisième ligne droite. Il est attaqué de toutes parts, notamment par le 2, Great Tornado, également le 6, Vent Contraire, qui vient très fort, et d'autres concurrents, le 4, Aska, aussi à son extérieur. Toujours Cambronne en tête, attaqué par le numéro 2 Great Tornado, et également le 4 Aska qui termine très fort. Alors tout à l'extérieur, fidèle à son habitude, le numéro 13 Cléora a enclenché et termine très vite. Le numéro 13 Cléora va prendre l'avantage à 100 mètres du poteau pour l'instant. Le numéro 13 Cléora qui va franchir certainement le poteau en tête, il reste quelques mètres. Oui, le 13 Cléora s'impose devant le 15 Louman qui a également très bien terminé sa course. Deux finisseurs qui étaient très loin et qui ont donc réussi à revenir dans l'arrière-garde et pour se classer premier. Le 13 Cléora qui était très joué également, qui s'impose donc devant le numéro 15 Louman, ensuite le 4 qui Aska a conservé la troisième position de ce quintet plus. Ensuite c'est serré entre plusieurs chevaux, notamment le 5 Watchim qui va certainement prendre la cinquième place, alors qu'à l'intérieur on a un autre concurrent qui est donc le numéro c'est le 11 ou le 6, je vais vous dire, c'est le 11 qui se classe certainement quatrième devant le 5, mais on va être prudent pour la quatrième place. Photographie entre le 11 et le 5. Je récapitule l'arrivée quand même du quintet. 13, 15, 4, ça c'est sûr pour les trois premières places. Ensuite, photographie entre le 5 et le 11.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup Fred Kita. D'un Fred à l'autre, Fred Joly cette fois-ci à la Baie des Champs pour cette OCR à Nice qui ouvre la journée de Ligue 1 en ce dimanche. Là, on va d'une surface à l'autre, Fred. Hein.
Exactement. Et puis il y a eu un beau centre venu de la droite pour la tête de Baird qui était monté très très haut. Une tête qui est passée à côté. Baird était déçu hein, de son geste. Peut-être il espérait mieux. Il espérait que ce soit peut-être un peu mieux s'appliquer pour au moins la cadrer. Et non, elle est passée à côté du but de Bulquin, le portier niçois. Après, on est revenu sur le but de Léon. Il y a eu un choc hein, entre Laborde et Joubal. Le long dégagement de Léon, c'est vers une tête niçoise, mais ça restera au Serrois. Il a pris un petit peu le pied au passage. La faute est sifflée et coup franc à suivre pour l'OGC Nice. 0-0.
Allez, on revient dans quelques instants à la Baie des Champs. Il est 15h20 sur RMC. D'abord, on va faire un petit détour par les routes espagnoles, la Vuelta, route portugaise d'ailleurs, en ce début de Vuelta. Salut Johan Bredov.
Salut Flora, salut à tous. Entre Cascais et Ourem, la deuxième des trois étapes au Portugal. On a toujours la même situation de course. Deux hommes en tête, deux Espagnols. Ipon Ruiz de l'équipe Equipo Kern Pharma et Luis André Maté, le vétéran espagnol le plus âgé, pour le dire poliment, de cette Vuelta 2024.
Le vétéran, on avait bien compris,
40 ans, il va prendre sa retraite, il se fait plaisir, il est passé en tête d'ailleurs de la première difficulté du jour, donc pourquoi pas un maillot distinctif pour sa dernière saison en course. 3 minutes et 15 secondes d'avance pour ces deux hommes sur le peloton, toujours emmené par les équipes de sprinteurs, la Visma Lisobike pour Wout van Aert et les Alpecin de Canning pour Cadengroves.
Et le but niçois, Fred.
Et le but niçois avec ce centre qui est venu de la droite et la tête de Chaud, me semble-t-il, qui est au second poteau, est venu et bien monter, il s'est appliqué, il a mis la tête, il était bien esselé, il en a profité et mis la balle sous la barre, elle touche la barre transversale et ça rentre.
Voilà, là aussi, tu vois, le réflexe qu'on a, c'est tout à fait logique. On regarde celui qui fait la tête et on se dit, tiens, il n'y a pas de marquage.
Ouais.
Mais il ne doit pas y avoir un centre aussi beau que ça.
Le centre, il est incroyable de la borne.
Le centre, il est magnifique.
Ouais, le centre est beau, mais la borne est complètement seule. Hein. Jolie est loin. Hein. Jolie, le temps qu'il revienne, la borne a eu le temps de se mettre sur son pied, de s'appliquer, d'ouvrir son pied comme il fallait.
Ajusté, et puis même la tête, elle est belle. Hein, parce qu'il faut,
elle est magnifique.
Il faut y aller. Il s'impose aussi dans les airs face à son vis-à-vis. Franchement, très beau but niçois, coach. Alors, dire que ça vienne forcément récompenser ce début de match pour les Niçois. On a beaucoup vu les Auxerrois dans la surface adverse malgré tout. Mais là, c'est vrai que cette action.
Mais bon, là, maintenant, déjà que le match n'était pas simple du tout, à 0-0, avoir maintenant ce but de retard contre une équipe de Nice, on a beau parler des absents, mais cette équipe de Nice qui est sur le terrain là me donne l'impression d'être supérieure à l'équipe d'Auxerre si on prend les joueurs les uns après les autres. Et là, avec l'ouverture du score, grosse complication.
Ouais, ça va devenir compliqué pour les Auxerrois, mais il y a du temps encore. 15h22 sur AMC. On revient dans quelques instants dans l'intégrale foot avec coach Courbis pour la suite de cette Auxerre à Nice. Et puis on va vous parler un petit peu de Kylian Mbappé aussi qui va faire ses grands débuts en Liga ce soir avec le Real. À tout de suite sur AMC.
RMC, Intégral Foot,
Flora Moussi.
15h23 sur RMC, on est de retour dans l'Intégral Foot avec coach Courbis. On suit cette Auxerre Nice avec Fred Joly, les Niçois qui viennent de faire la différence, Fred.
Ah, exactement, ce centre venu de la gauche, la borne pour la tête de Chaud. Le ballon a touché la barre transversale, mais la balle est largement rentrée dans le but de Léon. C'est, comme le disait le coach, ça va se compliquer un petit peu pour cette équipe de la JOCR qui, pour l'instant, a eu des soupçons d'occasion, mais c'est quand même pas très très franc. Le gardien niçois n'a pas eu vraiment beaucoup d'inquiétudes pour l'instant et beaucoup de choses à faire dans cette rencontre avec un nouveau ballon qui va peut-être être décalé sur le côté gauche. Non, on préfère repiquer dans l'axe du côté de l'OGC Nice. Ça joue bien, ça les a mis en confiance, hein, cette ouverture du score. On a l'impression qu'ils ont accéléré un petit peu dans cette rencontre, coach. Je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, c'est l'histoire, ça leur a donné de la confiance.
Mais je vois le positionnement d'Auxerre. Il va falloir rectifier parce que si tu veux ce 4-3-3 avec pratiquement à la première passe, trois joueurs éliminés chaque fois, ben ça me paraît pas être très 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 costaud comme organisation, et surtout la distance qu'il peut y avoir de marquage entre les joueurs. Les Niçois, pour moi, font trop facilement tourner le ballon.
Dante sur le côté gauche qui cherche un coéquipier, pas grand monde de bien démarquer puisque la JOCR est sur ce coup-là bien en place avec peut-être ce débordement. Il y a eu l'ouverture, c'était facile, ça paraissait tellement facile. Oh, il faut le retour défensif pour éloigner cette balle. Berve qui n'a pas été au contact, qui a attendu le ballon, et du côté de l'OGC Nice, on a bien joué le coup. Dante qui est venu couper tranquillement cette balle, il a fait parler l'expérience pour trouver sur le côté Mendy qui a pu relancer tranquillement les Niçois qui récupère déjà le ballon. Ah, c'est un constat aussi, hein. Du côté de l'OGC Nice, on récupère très très vite la balle et on cherche dans la profondeur. Joly, va falloir faire la différence. Il y a une faute. Il y a faute. Oui. Il a été bousculé. Même si du côté de la borne, on a l'air de dire non, il n'y a absolument rien. S'il y a une petite poussette qui a permis aux Auxerrois de récupérer cette balle. On le sent, hein, sur ce côté gauche. On sent que du côté de Paul Joly, elle est parfois, coach, un petit peu en retard. Il faudrait quand même remédier à ce petit problème de placement défensif.
Ben oui, c'est que bon, l'arrière droit d'Auxerre, il lui faudrait quand même un copain pas très loin, tu vois, et voire même deux.
Un peu de soutien, ouais.
Ben donc quand tu vois la distance qu'il y a entre son adversaire et lui-même, que le Niçois a tranquillement le temps de contrôler, de s'orienter, de regarder qu'est-ce qui se passe, et là tu peux pas t'en sortir.
Non, exactement, c'est ce qui s'est passé sur ce but qui a permis à l'OGC Nice de prendre l'avantage. Le décalage sur Paul Joly sur le côté droit, on revient derrière Ravelosson qui passe, qui doit passer par Joubal, car pour le coup les joueurs niçois sont bien en place défensivement, chacun son poste, chacun sa place, et c'est là qu'il faut faire quasiment la différence individuelle avec peut-être Bernan finalement une nouvelle fois le retour de la board. Voilà, on vient vraiment défendre du côté de l'OGC Nice. Tout le monde fait le boulot, coach.
Absolument.
Ouais, c'est déjà ça. Ils sont solidaires, en tout cas. Allez, le temps, le score, Fred, à la Baie des Champs.
27 minutes de jeu. L'OGC Nice mène 1-0. But de Chaud à la 22e.
Et aujourd'hui, on aura aussi coach un œil en Espagne, parce que ce soir, c'est la grande première de Kylian Mbappé avec le Real Madrid en Liga. 21h30 à Majorque. On va retrouver sur place notre correspondant Edgar Grollo. Salut, Edgar.
Salut Flora, salut coach, salut à toutes et à tous.
Hola, on va te dire hola maintenant tous les jours en Espagne.
Hola chico.
Voilà, tu vas nous
ça appartient à Fred. Tu
sais. Qu'on embrasse Fred Hermel. Première en Liga, oui. Mais Mbappé s'est déjà mis tous les supporters madrilènes dans la poche, ou presque, après la Super Coupe d'Europe. Qu'est-ce qu'on en dit chez les supporters madrilènes de cette première d'Mbappé?
C'est ça, il est déjà adoubé, on va dire, par les supporters qui ont tous acheté son maillot. 7000, près de 7000 ventes de maillots par jour, c'est deux fois plus que Cristiano Ronaldo en 2009 par exemple. À la Super Coupe d'Europe, avant même son premier match, dans la tribune, il y avait un drapeau en son honneur. Donc faut dire que les supporters l'attendent depuis longtemps et lui ont donné un véritable accueil. Alors quand il a marqué, en plus de ça, voilà, il s'est mis les supporters dans la poche. Même si, attention quand même Flora, attention, parce que on sait que les supporters madrilènes,
ça va vite,
passé, ça va vite, voilà, même Cristiano Ronaldo a été sifflé. Je ne vais même pas commencer à vous parler de Karim Benzema, ça c'était une toute autre histoire, mais ça va vite, et petit à petit l'exigence va forcément augmenter pour Kylian Mbappé. Petit à petit on va lui demander plus que des buts aussi, parce que c'est vrai que cette première performance, il a marqué, mais il ne fait pas le match de sa vie, et lui-même l'a dit. Mais voilà, c'est des débuts rêvés en tout cas pour lui, et s'il marque ce soir, peu importe, j'ai envie de dire, sa copie, tant qu'elle n'est pas catastrophique, s'il fait une copie correcte et qu'il marque, ce sera des débuts complètement rêvés de A à Z.
Ouais, coach, tu n'avais pas été emballé plus que ça pour ses débuts avec le Real?
Ah ben pas du tout. Mais je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui a pu être emballé.
Oh, si on regarde l'efficacité et qu'il a mis son but,
c'est plus l'histoire que le jeu, on va dire.
Donc si tu veux, comme je t'ai dit, il y a un journal qui s'appelle L'Équipe qui donne des notes. Et le lendemain de ce match-là, j'ai vu les trois attaquants du Real avec 6. Et Mbappé, pour moi, c'est un match que, quand on sait ce qu'il peut et ce qu'il doit faire, bon, il peut pas avoir plus de 5. Mmh. Donc bon, allez, maintenant, tant mieux pour lui s'il a en même temps la sympathie de notre journal, L'Équipe. Mais je pense qu'il faut qu'il fasse mieux, et qu'en plus il est capable de faire mieux. Et quand je dis il est capable de faire mieux, je l'espère, parce que il y a des questions que je me pose en tant que passionné, et j'ai pas la réponse du tout. Notamment, tiens, on parlait ce matin, j'ai cru entendre un débat avec Mbappé, sera-t-il meilleur au Real? Mais déjà qu'il retrouve sa forme, qu'il retrouve son niveau, avant de penser qu'il soit meilleur, qu'il retrouve déjà un certain niveau, puisque depuis 2 ans, nous avons un Mbappé en dessous de ses qualités.
Ouais, qu'on ne voit pas à son meilleur niveau.
L'occasion Serroise, elle est belle celle-là. Celle-là, elle est belle, avec le débordement de Joly qui avait parfaitement fait l'appel. Le centre en retrait. Retrait pour Ado Onayewu. Oh, c'était bien joué ça, coach.
Ah, c'est vraiment dommage. Parce que là, si tu marques pas sur une occasion comme ça, tu vas pas en avoir 50.
Ah oui, surtout qu'elle était vraiment bien emmenée, hein, la passe qui venait du centre, décalage pour Joly, la passe en retrait à Donaïwe qui était là, et la main ferme du portier niçois, et le corner à suivre. Le corner à suivre avec évidemment Perrin pour le tirer. Grande discussion entre l'arbitre de la rencontre et Monsieur Lissorgue et les joueurs niçois. Allez, le corner, on va peut-être pas trop tarder à tirer quand même, le temps que tout le monde se mette en place. Tout le monde écoute bien les consignes de l'arbitre. Mmh. Alors, on ne pousse pas, on ne tient pas, on machin, on bidule, enfin normal quoi. Et le corner qui va être tiré par Perrin. Avant c'était Aïn ou Perrin, maintenant ce ne sera plus que Perrin. Oh, c'est joué en deux temps. Oh là là, je ne sais pas si c'est forcément bien joué ça. Peut-être la mettre quand même là dans le. le paquet. Ah oui, mais il faudra un moment mettre le ballon devant le but, hein. C'est pas en jouant comme ça à 3 cm de la ligne à part obtenir un second corner. Alors, un second corner à suivre pour la JOCR, pour Perrin. Il faut mettre dans le paquet tout ça.
Bon, allez, je vais te dire, il vaut mieux les tirer que faire ces combinaisons.
C'est pourri ça, ça mène à rien. Ils se font des combinaisons de. On joue à la baballe alors que tu mets un ballon dans le paquet quand tu sais que t'as Joubal qui est là et que les grands sont là. Berre est là, Joubal est là. Voilà, c'est ça, coach. Il faut mettre dans le tas, puis c'est
absolument.
Tout.
Absolument.
Le corner, allez, Perrin, cette fois-ci, voilà, il a décidé de le mettre vraiment dans le paquet. Voilà, badaboum, voilà, au moins c'est dans le paquet, même si c'est pas très bien joué, ça va revenir sur Perrin. Deuxième chance, oh, faut le mettre tout de suite, il veut faire absolument un petit crochet sur le défenseur niçois. Joli, voilà, Joli se pose pas de questions, c'est dans le paquet, la reprise, la reprise à Noé, complètement écrasé, même si Boulka s'est envolé, il n'y avait vraiment pas gros danger pour le gardien niçois.
Il avait surtout le temps de s'envoler. Hein.
Ah bah, il a pris le temps, il a fait pour la photo, comme on dit. Hein. C'est tout juste, il n'a pas fait un clin d'œil à sa famille dans la tribune, en même temps qu'il était en l'air, pour te dire qu'il avait le temps. La touche à suivre, elle est pour les niçois. Voilà, deux semblants d'occasion. Mais c'est vrai.
Quand même belles occasions là.
Ouais, belles occasions, mais il faut les mettre au fond, celle-là, comme on disait avec coach. C'est que tu mets pas celle-là au fond, ben t'en auras peut-être pas 10 comme ça.
Ah non, ça c'est sûr. Surtout face au Niçois. On va revenir à Mbappé, coach. On a avec Edgar Rolo qui est toujours avec nous depuis l'Espagne.
Si tu veux, pour en revenir à Mbappé, pour essayer de me faire comprendre et d'avoir des repères, je vais essayer de le faire avec des questions. Donc aujourd'hui, Mbappé est-il meilleur que Vinicius? Et il y a deux ans de ça, est-ce que Mbappé était meilleur que Vinicius? Voilà, si j'ai la réponse à ces deux questions, je m'en contente.
Ouais, mais justement, coach Edgar parlait de ce qui se dit en France, dans le journal L'Équipe notamment. Qu'est-ce qu'on en a dit de la performance de Kylian Mbappé dans la presse espagnole? Est-ce qu'on s'est emballé? Il y a toujours beaucoup d'attentes autour de lui. Qu'est-ce qu'on en dit?
On s'est pas emballé sur sa prestation. Comme je disais, c'est surtout l'histoire qui est marquante au-delà de la prestation. Et même Kylian Mbappé l'a dit, il y avait des choses à travailler sur ce match. On s'est emballé sur le fait que Kylian Mbappé était enfin au Real Madrid après des années et des années et des années de feuilleton et qu'il avait enfin marqué sur son premier match qui était, je pense qu'il y a pas beaucoup de footballeurs dans leur carrière qui ont vécu une première autant scrutée que celle de Kylian Mbappé. Il arrive à marquer, à lancer cette histoire. Maintenant, dans le jeu, effectivement, on s'est pas emballé et c'est ce que je disais tout à l'heure. Plus il va jouer, plus les médias ici vont avoir de l'exigence.
Bien
plus
sûr.
Nous aussi, on va avoir de l'exigence sur son niveau et c'est normal. Il y aura pas que les buts qui compteront. Maintenant, ce qui était intéressant aussi de voir, c'était toutes les combinaisons aussi en deuxième période, parce que la première période c'était assez terne. En deuxième période, on se cherchait énormément entre Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Kylian Mbappé, et ça a été des choses sur lesquelles il va falloir s'appuyer beaucoup plus que sur la première période. Et Carlo Ancelotti en a parlé notamment en conférence de presse. Lui, il était satisfait de la première ensemble de ces nouveaux galactiques.
Oui, que por primera vez Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham ont jugado juntos.
Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham ont joué ensemble pour la première fois. Il y avait de bons liens entre eux sur le terrain. Les bons joueurs n'ont pas de difficultés pour se trouver. Et je n'ai pas particulièrement besoin d'essayer de les faire jouer ensemble. Ce sont des joueurs incroyables.
No es que necesito probar para que se acostumbre más. Ya están acostumbrados a jugar juntos.
Coach, tu voulais ajouter?
Oui, donc en ce qui concerne, si tu veux, Mbappé et son utilisation, ce qui est assez facile, puisqu'il peut se balader de droite à gauche et de gauche à droite. Mais ce que j'ai trouvé quand même très intéressant pour lui, et ça, c'est grâce à son intelligence pour pouvoir se faire adopter, c'est la sympathie de ses coéquipiers, qui sont quand même des coéquipiers talentueux. Je pense à Vinicius, je pense à Bellingham. Quand, par exemple, l'objectif de Mbappé, c'est le Ballon d'Or, ben pour avoir
les
le ballon d'or dans le club que tu as choisi, tu en as deux là que ça
ben
sera
ça.
Quand même
en concurrence directe, là.
Difficile d'être devant eux.
Ouais, justement, est-ce que ce quatuor Edgar va être conduit ce soir? Est-ce qu'on doit s'attendre à voir Kylian Mbappé titulaire?
On doit s'attendre a priori à voir Kylian Mbappé titulaire. On doit s'attendre aussi à une équipe qui sera soit la même, soit très proche de celle qui avait été proposée en Supercoupe d'Europe. Les petites interrogations, c'est est-ce qu'on aura un Luka Modric par exemple qui sera titulaire au milieu de terrain? Est-ce que Dani Carvajal va être titulaire à nouveau, ou est-ce qu'on aura plutôt un Lucas Vázquez?
Si tu veux, on suce de la salive et je rectifie chaque fois et je m'en excuse. On n'aura pas un Modric pendant 95 95 minutes. On n'aura pas un tel pendant 95 minutes. On bien aura, sûr. Si tu veux, 16 joueurs de talent que rien que tu lis leur nom et tu es leur t'as adversaire, tu as peur.
Ah ouais. Ah bah t'aurais aimé les avoir sous tes ordres, là, coach. Ah, bon, cet effectif-là.
Il a des étoiles dans les yeux, là, coach.
Tu as trouvé la solution.
Bon, on verra ce soir, en tout cas, s'il est titulaire, Kylian Mbappé, 21h30, donc pour ce Mallorca-Real Madrid en Liga. Merci beaucoup, Edgar.
À très vite.
À ce soir, salut, évidemment. Allez, le temps, le score en Ligue 1 entre la GIA et Nice, Fred Joly.
37 minutes de jeu. L'OGC Nice mène 1-0, but inscrit par Cho.
Allez, 15h36 sur RMC. On revient dans quelques instants pour la suite de l'intégrale foot avec Coach Courbis et la fin de cette première période entre la GIA et Nice. À tout de suite sur RMC.
RMC, intégrale foot.
Flora Moussi.
15h39, on est de retour avec Coach Courbis sur RMC pour la suite de l'intégrale foot et la fin de cette première période entre Auxerre et Nice. Fred Joly avec toujours les Niçois devant et qui se montrent dangereux de plus en plus. Hein.
40 minutes de jeu, l'OGC Nice mène 1-0. Alors qu'on sort d'une pause fraîcheur, c'est vrai qu'il fait au moins 20 degrés. Ils l'ont bien mérité.
Ah, on n'a pas l'habitude à Auxerre, peut-être, hein, je sais pas.
Ah, bah, la pause fraîcheur à 20 degrés, quand même, ça valait le coup. T'es limite à boire un thé de ce temps-là. Ouais. Donc oui, effectivement, ils ont eu une bonne occasion. Hein. Il y a Cho qui aurait pu inscrire un second but, hein, sur un centre qui est venu de la droite. Il a complètement manqué sa reprise alors qu'il était complètement seul à l'entrée de la surface de réparation. Une balle complètement écrasée qui n'a guère inquiété Léon, le portier auxerrois. Et puis la réponse auxerroise, hein, ça a cafouillé devant le but. Oh, le ballon dans la profondeur. Oh, il n'y a pas manqué grand-chose. Hein. Oh, Guessant, il a manqué deux crampons. Il aurait fait du 43 à la place du 42. Il l'aurait touché. Il aurait pu inquiéter vraiment Léon, coach, ce genre de ballon. C'est pareil, hein, faut pas les laisser faire, les Niçois, sur ce type de ballon.
C'est pas la première fois depuis le début du match que les Niçois sont juste à quelques centimètres d'être dangereux. C'est quand même un petit peu emmerdant.
Ouais, complètement, hein, ce ballon qui était bien dosé dans la profondeur. Il a manqué vraiment quelques centimètres agaissants pour venir mettre en difficulté Léon. Les Niçois sont toujours en possession du ballon. Rosario, le défenseur central d'intérim dans cette équipe niçoise, puisqu'il manque pas mal de joueurs du côté de l'OGC Nice. Donc on est obligé de s'adapter un petit peu en mettant par exemple Brahimi milieu gauche, mettre Rosario défenseur central. Mais pour l'instant, ça leur réussit plutôt bien aux Niçois, même s'ils ont 7 joueurs sur le flanc. Et bien du côté de Franck Hez pour sa première sur le banc niçois, première officielle. Il a réussi à composer une équipe avec des bouts de ficelle, mais qui pour l'instant se débrouille plutôt bien. Mais certes, oui, face à des Auxerrois qui sont un petit peu à la peine, coach.
Ouais, mais quand tu regardes un petit peu la composition de cette équipe, puisque l'organisation, on la connaît de A à Z, donc c'est quand même une équipe correcte.
Ah oui, complètement, oui. Ah ouais. C'est vrai que sur le papier, on peut dire oui, il manque 7 joueurs. Oh, le centre, oh la tête, il a manqué. Il n'a pas manqué grand chose, heureusement.
Ces centres là sur le côté gauche niçois, ça fait mal quand même à la défense auxerroise. Ben, hein. Oui, à chaque fois, ça vient du même côté.
Disais, l'arrière droit d'Auxerre, il lui faudrait peut-être un petit copain.
Ouais. Ouais. Que ce soit Brahimi ou Laborde, des fois qui est sur ce côté gauche, ils font mal. Hein.
Mais ils sont trop dangereux.
Mm. C'est vrai qu'ils se retrouvent souvent avec soit Laborde, soit Brahimi, soit Laborde et Brahimi qui combinent. Et voilà, et lui, il est seul et parfois bien seul au monde. Il faudrait peut-être que du côté du milieu défensif, que Rabelson ou Vouzou viennent lui filer un petit coup de main, ou que Joubal se décale légèrement sur la droite, même si malheureusement, il pourrait créer un espace plein axe. C'est là peut-être un petit peu le casse-tête du côté de Christophe Pélissier, qu'on va tenter de résoudre, on imagine, à la mi-temps qui arrivera maintenant dans 3 petites minutes, enfin plus le temps additionnel, peut-être 4 ou 5 minutes.
Ouais, il n'y a pas eu énormément d'arrêts. Je suis un petit peu la pause fraîcheur, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, voilà, qui fera peut-être la différence. Mais il y a quand même des possibilités, moi, je trouve, pour les Auxerrois. Ouais, ils arrivent à se trouver offensivement.
Ah, Vouzou, c'était pas mal. La petite balle vers Vouzou qui a pu décaler complètement sur le côté droit. Sinayoko, remettre derrière. Voilà, faut frapper maintenant. Faut tenter le coup. Non, il n'ose pas. Il va préférer redécaler sur Joly à droite. Joly qui lui va mettre dans le paquet. Non, lui, évidemment, il cherche à se mettre sur son pied droit pour donner le ballon. Perrin qui fait la peine, il revient. Allez, faut tenter du gauche. C'est pas mal.
Oui.
Et c'est le but. Et
c'est l'égalisation. Oh, c'est pas mal du tout. Cette balle qui a été mise sur Joly, qui a fait pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, avant de centrer et de mettre sur Ravelosson, qui contrôle en pivot, qui frappe et qui met le ballon hors de portée de Boulka et permet à la JOCR d'égaliser un partout entre la JOCR et l'OGC Nice. Et la coach, pour le coup, c'est bien construit.
Ah, très bien. Et Ravelosson, c'est celui qui était assis là et qui était un petit peu blessé il y a quelques minutes, non?
Ouais, c'est celui qui est sorti quelques instants. Ouais, il est venu se faire soigner sur la touche. Voilà, on lui a mis un petit coup de bon, un petit coup. On s'est occupé de lui pour qu'il puisse revenir sur la pelouse. Et bien voilà, il a apparemment rapidement repris ses esprits.
L'enchaînement est très très bien joué dans la surface parce qu'il y a du monde autour de lui quand même.
Le contrôle de celui qui marque est réussi et c'est grâce à ça qu'il marque.
Ouais, c'est Ravelosson hein, qui marque et qui contrôle. Ouais, il est quasiment dos au but, hein, il contrôle en pivot et boum.
Et son tir passe une fois de plus parce qu'on le voit des tas de fois entre les jambes d'un défenseur.
C'est Rosario qui se fait avoir aussi par le contrôle orienté là, dans l'autre sens et qui plonge du coup. C'est dur pour la défense niçoise aussi.
Ouais,
là,
puis ce qui est dur surtout, c'est bon de prendre le but égalisateur et de le prendre à 2 minutes de la mi-temps. Mais de l'autre côté, les Auxerrois ont quand même eu des occasions. Hein.
C'est pas immérité dans cette première période.
Mais quand on dit que le contrôle, c'est 80% d'un but, on s'en rend compte avec Ravelosson. T'as vu ce contrôle en pivot? C'est incroyable. Il est dos au but. Le ballon arrive assez fort. Hein. Joly, il fait une passe quand même assez appuyée. Il contrôle vraiment. Il se retourne en même temps. Il frappe quasiment sans lever la tête. Voilà, tout à l'instinct et un vrai but.
Il y a eu des occasions de part et d'autre. Mais du côté de Nice, il y a eu l'occasion quand même au moins deux fois de faire le break et ça Nice peut le regretter.
Oui, avec attention, oh là là, une nouvelle fois il y avait ce centre qui a failli arriver de l'autre côté
et complètement toujours de la gauche.
Il va y avoir le centre de la droite du côté de Nice,
toujours de la gauche,
il passe que par la gauche. Bon, alors le pauvre Paul Joly qu'on a accusé d'être un petit peu seul au monde, il a quand même été passeur sur ce but égalisateur de la JOCR. Mais c'est vrai qu'au Charidon, il faut vraiment que sur la droite trouver une solution, car souvent il va souffrir tout au long de ce match face à Brahimi et la borde, ça risque d'être compliqué pour lui encore en seconde période.
Ça va être compliqué pour lui. Non mais ça c'est sûr. En même temps, je pense que là, Christophe Pélissier nous voit les mêmes choses que nous. A priori, il va bien voir qu'il y a un problème de ce côté-là.
C'est pas la passe
devant son banc en plus.
Qui est mauvaise, là, c'est l'idée.
Ouais, exactement, avec 2 minutes de temps additionnel. Nous sommes entrés dans ce temps additionnel. Il doit rester 1 minute 10. À jouer dans ce temps additionnel, c'est bon, hein, c'est bon, ça de marquer pour la JOCR juste avant la pause, comme ça.
Ça va faire du bien, ouais.
Ça remonte le moral à la coach, on aime bien comme ça marquer et égaliser. À quelques minutes, quelques secondes seulement
Tu as le même score dans chaque vestiaire et pourtant tu n'as pas la même réaction et le même comportement.
Ouais, c'est ça, là, on va, les Auxerrois qui doivent être en train de se dire que finalement, bon, c'est pas simple face à l'OGC Nice, mais qu'ils sont capables de marquer. Et quand on est capable d'en mettre un, pourquoi pas en mettre un deuxième, même s'il va falloir un peu s'appliquer défensivement.
Déjà, tu sais, dans ce premier match, évidemment qu'on aimerait avoir la victoire, mais déjà, de pas le perdre. Alors que Nice a ouvert le score, ça serait déjà pour moi pas mal de satisfaction.
Exactement, avec Donovan Léon qui va pouvoir dégager ce renvoi aux 5m50. On devrait avoir le coup de sifflet dans quelques instants de l'arbitre monsieur Lizorg qui attend que ça dégage. Voilà, et le coup de sifflet de monsieur Lizorg qui renvoie les deux équipes au vestiaire. Un partout, chaud pour Nice, égalisation de Ravelosson pour Auxerre.
Merci beaucoup Fred, on te retrouve tout à l'heure évidemment pour la seconde période qui s'annonce passionnante et pleine de suspense entre la GIA et Nice. Et tout de suite justement, eh bien, on va parier sur cette seconde période.
Winamax, le plus important c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec notre expert en paris sportif, Johan Bredov. Salut Johan.
Salut Flora, salut coach, salut à tous.
Salut.
Quelles
Johan.
Sont les cotes pour cette seconde période? Équilibrée?
Ouais, plutôt équilibrée, même si Nice garde un léger avantage comme en début de rencontre. 2,50 la victoire de Nice, 2,35 le match nul, 2,90 la victoire d'Auxerre. Je vous avais proposé le match nul avant la rencontre. Je vais rester sur ça à 2,35. Après, est-ce qu'on peut voir les deux équipes marquées? Ça m'étonnerait pas. Moi, je vous propose le 2 partout. Il est coté à 5,40.
Coach, tu verrais quoi, toi?
Ben, les deux équipes qui marquent.
Évidemment, les deux,
ça, c'est bon.
Les deux équipes qui marquent, ça doit être plutôt pas mal. Je vais te trouver ça. C'est Nice qui marque au moins un but et Auxerre qui marque au moins un but. C'est la technique pour le faire. 1,66 et 1,56. 2,95, hein, les deux équipes marquent pour cette seconde période.
Ça te va ? Allez, tu prends. Merci beaucoup, Johan. Tous les paris à retrouver sur le site rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Un partout, donc, à la pause entre Auxerre et Nice. La seconde période à venir dans quelques instants. Il est 15h48 sur RMC. On marque une courte pause et on revient juste après dans l'intégral foot avec Coach Courbis.
RMC, intégral foot.
Flora Moussi.
Il est 15h55, bientôt sur RMC. Merci d'être avec nous dans l'intégral foot avec Coach Courbis. On est à la pause de cette Auxerre-Nice. Un partout entre les deux équipes. Chaud avait ouvert le score pour Nice avant l'égalisation de Ravelosson. Juste avant la pause, on va retourner à l'Abbé Deschamps dans quelques instants. On vous rappelle que juste derrière, à 17h, c'est le nouveau rendez-vous. Hein, maintenant, le multiplex à 17h. Ce sera avec Benoît Boutron et Sébastien Piocelle tout à l'heure. Trois affiches qu'on vous présente. Mais d'abord, on va vous parler aussi de l'affiche du soir dans cette première journée de Ligue 1 à 20h45 entre Rennes et Lyon au Roazhon Park. On suivra évidemment tout ça sur RMC avec Xavier Grimaud. Salut Xavier.
Salut Flora, salut à tous.
Salut Xavier.
Salut Roland.
Alors, plusieurs questions autour de ce match, évidemment. Déjà, s'interroger sur Lyon. Est-ce que les Lyonnais vont surfer sur la folle fin de saison dernière qui leur avait permis de terminer avec cette sixième place et de décrocher surtout une place européenne, avec toujours à la barre de ce bateau lyonnais, Pierre Sage, hein, qui est toujours bien là.
Il est toujours bien là, effectivement, et c'est un peu la saison de la confirmation, on a envie de dire, hein, puisque Pierre Sage arrivait avec beaucoup de questions derrière lui, et il les a assez vite réglées, ces questions, en faisant une deuxième partie de saison canon, hein, quand même. La remontée, elle est effectivement radicale de la part des Lyonnais. Alors ça aide, évidemment, quand on peut investir plusieurs dizaines de millions d'euros au mercato d'hiver, hein. Il y a eu un recrutement massif qui leur a permis de remonter, mais voilà, personne ne voyait Lyon finir sixième, donc ils font un retour en Coupe d'Europe et ils ont de l'ambition, une ambition affichée cette saison, d'aller chercher, retrouver la Ligue des Champions. Et ils ont un effectif qui est resté stable par rapport à la fin de saison dernière, puisqu'il n'y a que deux recrues, hein, à savoir Niakate, le défenseur central de Nottingham Forest, et évidemment Georges Mikotadze. C'est l'un des gros coups du Mercato. Les deux devraient être titulaires ce soir au Roazhon Park. Mikotadze, évidemment, encore plus en l'absence d'Alexandre Lacazette qui est suspendu et qui, de toute façon, aurait certainement eu une semaine de vacances comme Cherki suite aux Jeux Olympiques. Donc l'équipe de Lyon, Roland, elle a de l'allure, évidemment, s'ils sont sur la lancée, même s'il manque peut-être un peu de monde au milieu de terrain parce que c'est un petit peu vieillissant autour de Matic, mais elle a plus de certitude que Rennes, dont on va parler dans un
instant. Si tu veux, on ne va pas mélanger équipe et effectif. Donc c'est vrai que l'ossature de la saison dernière, c'est quelque chose qui est très intéressant, avec en plus Sage qui maintenant connaît ses joueurs individuellement de A à Z. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Le recrutement de Lyon, il n'est pas terminé par rapport à tout ce qu'on entend et par rapport à tout ce qu'on lit.
Non, il n'est pas terminé.
Comment on fait pour recruter quand derrière ce recrutement et ces deux arrivées, même s'il n'y en a que deux, il faut quand même que tu vendes une certaine somme pour une certaine somme d'argent. J'arrive jamais à suivre, moi.
Il n'y a pas de départ en vue, quoi, à Lyon.
Ah, c'est pas simple à suivre, hein, niveau finance, Lyon, et comment il fonctionne, c'est pas simple. Alors, il y a Abner aussi, le Brésilien, en recrutement, que j'ai oublié, mais c'est le nom, un nom un peu moins connu, l'arrière gauche qui est arrivé début juillet, jeune joueur, hein, de 24 ans qu'on va aussi découvrir. Mais oui, non, le mercato, ça doit encore bouger, mais il y a aussi des ventes à faire, évidemment, donc ce sera animé pour les 10 derniers jours.
On va écouter déjà Pierre Sage, le coach lyonnais, sur les ambitions de son équipe cette saison en Ligue 1.
Pour moi, une saison réussie, ce sera une meilleure saison que celle de l'an dernier dans sa globalité, avec une meilleure maîtrise de l'ensemble des temps, le fait de s'inscrire positivement dans les trois compétitions et de faire progresser l'ensemble des joueurs, à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif.
Mais quoi, lui aussi, il nous dit pas que il se languit quand même que le recrutement soit terminé et qu'il soit au courant de A à Z des joueurs qu'il a et des joueurs qu'il a pas ou des joueurs qu'il a plus.
Ouais, de quelle équipe il va pouvoir mettre en place effectivement.
Par exemple, est-ce qu'il va pouvoir se servir toujours de Cherki comme joker? S'il part, ça sera difficile.
Bah oui, il pourra plus effectivement. Xavier, on parlait de Alexandre Lacazette qui est absent aujourd'hui. Forcément, c'est l'attraction aussi coach, hein, cette paire d'attaquants Alexandre Lacazette, Georges Mikotadze, est-ce qu'ils vont être amenés ou pas à jouer ensemble? Comment tu vois les choses, toi?
Ouais, mais toujours avec la même idée. Ils peuvent se partager le boulot. Ils peuvent aussi jouer ensemble en même temps une partie du match, mais pas obligatoirement la totalité. Un garçon comme Mikotadze est capable aussi de se balader un petit peu de droite à gauche et être sur un côté. Donc ça peut faire effectivement un duo redoutable. Mais j'attends avec impatience la fin du recrutement, parce que j'ai quand même toujours appris ou toujours pensé que quand tu voulais faire rentrer de l'argent, tu vendais pas les mauvais. Donc savoir dans les 15 jours, les joueurs qui vont partir de Lyon, est-ce que ça ne va pas affaiblir Lyon par rapport à l'effectif d'aujourd'hui et du match contre Rennes?
Ouais, ce sera évidemment des réponses à apporter dans les semaines à venir d'ici la fin du mercato. On est toujours à la pause de Auxerre-Nice, partout. Ça va reprendre dans quelques instants, mais on continue de parler de l'affiche du soir entre Rennes et Lyon avec Xavier Grimaud. Xavier, il y a évidemment aussi le calendrier pour les Lyonnais, parce qu'il y a un gros début de championnat pour l'OL. Et quand on se souvient du début de saison catastrophique l'année dernière, forcément, ils vont avoir à cœur de pas refaire les mêmes erreurs.
Bah évidemment, normalement on est censé apprendre de ses erreurs. Donc les Lyonnais savent qu'ils n'ont pas le droit d'avoir du retard à l'allumage. Il y a un déplacement à Rennes, il y a la réception de Monaco pour enchaîner au Parc OL. Donc Monaco qui est quand même un gros annoncé. On a pu le voir hier. Donc non, faudra pas
Strasbourg, Lens, Marseille et après aussi.
Ouais. Et la Ligue Europa qui arrivera derrière tout ça. Donc non, effectivement le calendrier va être costaud. Lyon historiquement était habitué à gérer ce genre de problématiques, mais ça fait quelques années qu'ils n'ont pas été en Coupe d'Europe et il faudrait pas que les vieux démons évidemment de la saison dernière reviennent. Normalement, bon, sous Pierre Sage, il devrait être plutôt vacciné de ce genre d'erreur, mais Pierre Sage est un jeune entraîneur aussi et ça va être intéressant de le suivre sur une saison complète et notamment sur une saison où il a eu le temps de travailler vraiment pendant toute une préparation, de voir si son Lyon va ressembler à celui des 6 derniers mois.
Ouais, ça va vraiment être son équipe cette année. On va parler un petit peu de Rennes maintenant avec toi, Xavier, parce que l'équipe, pour le coup, elle a beaucoup bougé aussi pendant ce mercato estival.
Combien de recrues tu connais de Rennes? Enfin, que t'en avais déjà entendu parler de combien, Flora? Parce que moi, je vais pas faire le connaisseur de la MLS et du championnat.
Pas beaucoup, on va pas se mentir. Pas énormément.
Non, on va en découvrir énormément.
Ce sera peut-être des bons coups, hein.
Oui, sans doute. Il y a deux noms, on va dire.
On va pouvoir juger rapidement les qualités, les connaissances de Massa.
De Massara, oui, absolument, Massara. Parce que là, c'est un recrutement vraiment qui porte sa patte. Alors, peut-être qu'on peut, à part peut-être Glenn Camara, le Finlandais recruté à Leeds, qui a notamment joué au Glasgow Rangers, qui était déjà suivi par Rennes sous le mandat de Florian Maurice. Sinon, les autres, voilà, ça porte la patte de Massara, hein, que ce soit notamment les deux joueurs les plus connus du recrutement, c'est Oestigaard, le défenseur central du Napoli, et Attebourg, le Néerlandais de l'Atalanta, un champion d'Europe avec l'Atalanta la saison dernière, recruté vraiment par le réseau italien de Massara. Les autres, ce sont et des paris et des bonnes pioches espérées par le Stade Rennais, que ce soit Albert Grombeck, 23 ans, le Danois, Carlos Andrés Gomes, le Colombien de 21 ans que Rennes a été cherché à Salt Lake City en MLS, Heinrich Meister, le Danois de Sarpsborg, il a 20 ans seulement, alors il a marqué beaucoup de buts dans cette saison. La saison en Scandinavie a commencé en avril, donc il en est déjà à 8 buts, il arrive en forme à Rennes. Mais voilà, il y a beau Jordan James aussi, un jeune Gallois de 20 ans. Bref, c'est un recrutement à l'international, un changement aussi de stratégie dans le recrutement rennais, qui avait l'habitude d'aller chercher à l'international mais aussi de prendre des joueurs de Ligue 1 comme la saison dernière, Enzo Lefebvre et Ludovic Blas. Ça n'a pas marché, on a envie d'amener autre chose, une autre mentalité aussi, a dit Julien Stéphan, pour dynamiser un petit peu le club, peut-être le sortir un peu d'une petite apathie dans laquelle il était tombé. Faudra du temps pour
ouais, certainement. Ça dépend. Des fois, quand tu fais les bons choix, que tu as un petit peu de réussite en ce qui concerne le niveau des joueurs, dans l'époque que nous vivons, c'est très difficile de te tromper avec toutes les stats. Mais par contre, j'insiste toujours sur la complémentarité de deux joueurs pour former un duo, sur la complémentarité de trois joueurs pour former un trio, et ça, des garçons aussi compétents que les personnes qu'il y a à Rennes sont au courant de ça. Je ne leur apprends rien, mais on va quand même le découvrir, parce que c'est vu les départs et vu les arrivées et certains départs, je sais pas vous, mais moi je suis surpris de l'endroit où vont ces joueurs. Ouais. Un Terrier qui puisse partir de Rennes alors qu'il a jamais retrouvé vraiment 100% de ses moyens depuis sa grave blessure. Ben, je disais, oui, tiens, ça sera pas mal pour tout le monde. Mais je ne le voyais pas aller au Bayern Leverkusen. Ouais, ouais. Pareil pour Belossian qui est pas titulaire à Rennes et qui est demandé, paraît-il, depuis 2 ans, ils sont sur lui pour pouvoir le récupérer. Chacun ses goûts. Eh ben, on va suivre un petit peu Belossian. Ce qui va se passer par curiosité du côté de l'Allemagne. Mais là, il y avait besoin, et je pense que ça a été rectifié, d'une certaine solidité et d'une certaine expérience, notamment des défenseurs. Bourigeaud va se rajouter certainement à la liste des départs. Ben, c'est un redémarrage à zéro qui est passionnant. Et n'oublions pas que, contrairement, puisqu'on parle de Lyon, Rennes, par contre, n'aura pas dans le calendrier la Coupe d'Europe. Mmh. Et je dirais les fatigues de la Coupe d'Europe. Ça sera pour la saison prochaine dans l'objectif de Rennes.
C'est leur objectif, en tout cas. Xavier, ne bouge pas. On revient avec toi, évidemment, dans quelques instants. Mais c'est reparti à la Baie des Champs, Fred Joly, entre Auxerre et Nice.
Ouais, c'est reparti depuis 3 minutes. Le score est 2-1, but partout entre Auxerre et Nice. Chaud vers le score pour Nice. Rabelloson égalisé pour Auxerre. Et il y a un coup franc à suivre pour la Auxerre après une faute commise sur Paul Joly sur le côté droit. Ça va être joué par Perrin.
On va le suivre avec toi, hein. ce coup franc qui est presque un corner un petit peu plus bas là.
C'est ça. Et puis on a vu un début de rencontre, Guessant, l'attaquant niçois, s'est essuyé légèrement les crampons sur le crâne de Léon. Il a été repris par l'arbitre. Voilà, c'était pas très très sympathique comme geste, mais il l'a peut-être pas fait exprès. Mais bon, tous les cas, c'est le pied traînait bien. Et boum, comme par hasard, il y avait le cuir chevelu de Léon qui était en dessous. Comme quoi ça arrive. Allez, le coup franc, Perrin, pour mettre cette balle dans la surface de réparation. Voilà, c'est dans le paquet. Une tâche ou balle. Oh, du poteau gauche. Ça c'est bien tiré et Joubal a mis sa tête, mais il était coach un petit peu en train de reculer, c'était difficile de l'ajuster mieux.
Ah, c'est difficile, ouais. Quand même, ouais. C'est difficile de faire mieux à 20 cm près,
but. C'est ça.
Ah, c'est ça. À 20 cm près, il y avait deux, hein. Mais non, c'est passé juste à côté. Un partout entre Auxerre et Nice.
C'est reparti fort, en tout cas, dans cette rencontre. On est toujours avec Xavier Grimaud pour parler de l'affiche du soir en Ligue 1 entre Rennes et Lyon, 20h45 au Roazhon Park. Et Xavier, on parlait de ce changement aussi de cycle un petit peu chez les Rennaisiens.
Oui, exactement. Et on peut écouter Steve Mandanda, le capitaine du Stade Rennais, qui était en conférence de presse pour cette première journée. À 39 ans, 17e saison de Ligue 1 que va entamer Steve Mandanda, qui a toujours faim. Hein. Roland, il ne s'est pas fixé une fin de carrière. En fin
ouais,
de saison,
il est toujours passionné.
Ouais, exactement. On peut écouter ce qu'il pense des nombreux changements Rennais à l'intersaison.
On part sur un changement entre guillemets de cycle avec nouveau directeur sportif, beaucoup de changements au sein de l'effectif, mais en même temps il reste quand même pas mal de monde aussi qui connaissent bien le club, qui connaissent bien le championnat, donc ça va faciliter aussi l'intégration des nouveaux. Et puis malgré tout, c'est de repartir après cette saison dernière qui a été très compliquée, c'est de repartir sur beaucoup d'ambition avec un objectif élevé et puis donner le maximum pour pouvoir l'atteindre. Le coach l'a dit, le directeur sportif l'a dit également, c'est de retrouver l'Europe parce qu'un club comme le Stade Rennais mérite de retrouver l'Europe. En plus, on a envie d'effacer un peu ce qu'on a fait de moins bien la saison dernière, c'est d'être beaucoup plus régulier, de donner du plaisir aussi au public et ouais, donner du plaisir à tous les gens qui supportent le Stade Rennais.
Ouais, et il y en a qui supportent le Stade Rennais, justement. Il y a cette volonté aussi cette saison, Xavier, de redonner un petit peu de plaisir à ce public rennais qui est devenu, c'est vrai aussi, exigeant, parce que chaque année quand on joue la Coupe d'Europe, on s'y habitue rapidement. Hein.
Bah oui, on a joué la Coupe d'Europe 7 années de suite du côté de Rennes. C'est inédit dans l'histoire du club et il y a peu de clubs français sur les 8 dernières années du coup qui ont été à chaque fois en Coupe d'Europe. Donc forcément, on s'est habitué à ça. On s'est aussi habitué, il faut le dire, pendant 2 ans à un jeu qui était quand même extrêmement chatoyant et très agréable à suivre sous Bruno Genesio. La dernière année de Bruno Genesio a été évidemment bien plus compliquée. Donc on a perdu un petit peu de lien entre le public du Roazhon Park et son équipe avec voilà, moins de plaisir pris. Et c'est l'un des objectifs de Julien Stéphan, notamment de ramener des sourires auprès des supporters. Les supporters sont exigeants, mais ils n'ont jamais été durs avec Rennes. Par exemple, à la dernière journée de championnat, il n'y a eu aucun sifflet alors que l'équipe terminait 10e. Mais les supporters ont prévenu avec une banderole lors du dernier match amical le week-end dernier. Pas de saison de transition. L'Europe, c'est dès cette saison. Donc voilà, ils ont la pression. Et quand on est Rennes, évidemment, on est obligé d'essayer d'aller chercher l'Europe.
Ouais,
et de se battre pour les sept places qui seront européennes.
Ce qui me paraît tout à fait logique d'avoir ça comme objectif, et donc on va suivre avec beaucoup de curiosité cette saison, parce que justement pour se qualifier pour l'Europa League ou pour la Champions League, rien de mieux que d'avoir un calendrier comme va avoir les Rennais, c'est-à-dire sans match ni le mardi ni le mercredi, ouais, ni le jeudi. Et quand je vois un petit peu ce recrutement, ben on a beaucoup de points d'interrogation, parce que il y a beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas, on en entend parler. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a besoin impérativement d'une certaine solidité, d'une certaine expérience. Mandanda, évidemment qu'il a cette expérience, mais ça ne suffit pas d'en avoir que un ou deux. Il en faut au moins trois ou quatre. Et après, l'effectif qui a été construit par Rennes, ben je reste persuadé qu'il sera performant.
Ouais, on verra déjà les premières ébauches de tout ça ce soir, 20h45. Donc, pour ce Rennes-Lyon au Roazhon Park. Merci beaucoup, Xavier.
À tout à l'heure.
On se retrouve ce soir dans l'After Live aux commentaires avec Pierre-Yves Leroux. 16h10 sur RMC. Nous, on suit le premier match de ce dimanche entre Auxerre et Nice avec Fred Joly à la baie des Champs, avec toujours cet équilibre parfait, j'ai envie de dire, entre les deux équipes.
Ouais, partout, mais un coup dur hein, quand même pour Christophe
Pelissier.
Ouais,
il y a eu du changement là.
Ouais. Akpa, le latéral gauche, qui remplaçait déjà Mensah, qui est blessé.
J'ai à te dire, c'est difficile d'être latéral gauche à Auxerre. Hein.
Ouais. Oui, c'est très compliqué, oui, parce que Mensah a touché au mollet. Et là, Akpa apparemment se tenait la cuisse droite, semblait se tenir l'arrière de la cuisse droite. Donc on l'a sorti, on l'a remplacé par Pelnar, qui n'est pas vraiment un latéral, c'est plutôt un défenseur central. Mais bon, il est venu prendre la place d'Akpa sur le côté gauche de cette défense auxerroise. Oh, l'accélération, c'était bien joué là, cette combinaison entre les deux Niçois. Cette petite balle remise dans la course, Guessant qui avait remis pour son coéquipier, mais qui a bien été pris par la défense auxerroise. Voilà, avec Pelnar sur le côté gauche. On en parlait à coach en début de retransmission, que du côté de la JOCR, Christophe Pelissier réclamait trois renforts défensifs. Ah ouais. Ça va pas être de trop, hein, moi, ce rythme-là. Hein.
Ça, c'est sûr que là, cette blessure.
L'accélération auxerroise, Ado Onayou qui frappe. Non, il ne frappe pas. Voilà, vas-y, je te laisse terminer, coach.
On ne sait pas exactement ce qu'il a, mais vu la façon dont il a quitté le terrain,
il posait pas le pied par terre.
C'est pas une piqûre de moustique. Hein.
C'est ça, c'est pas très rassurant quand le joueur sort en se tenant la cuisse comme ça. Ça sent le claquage. Ouais, allez, Perrin, il a tenté un geste difficile. Ravelosson au-dessus. Oh là, il a complètement dévissé, Perrin. La frappe de Ravelosson n'était pas mieux. Là, c'était de l'à peu près. Ça n'a guère inquiété la défense niçoise.
Ouais, c'est dommage parce que ça, c'est des opportunités. Mais aussi, oui, hein, pour les Auxerrois. On les voit hein, globalement comme en première période. Hein, ils sont assez entreprenants, ils se projettent, il y a des combinaisons, il y aura des opportunités hein, pour Auxerre, mais c'est vrai que c'est le genre d'occasion là, qu'il faut arriver à transformer. Hein.
Je te dis, et j'insiste là-dessus, c'est pas un manque d'ambition. Je me mets à la place d'Auxerre, surtout de maintenant, après avoir égalisé, de pas le perdre ce match-là. Évidemment, ouais, si après avoir été mené 1-0, tu gagnes ce match-là de 1, c'est extraordinaire, mais déjà ne le perds pas, et c'est déjà pas mal.
Oui, c'est déjà l'objectif principal. Quoique cette équipe au Servant, je ne sais pas si vous ressentez vous la même chose devant vos écrans, on a senti qu'au début elle faisait une sorte de peut-être de complexe d'infériorité. On, ouais, vient de remonter en Ligue 1, on n'est, ouais, pas forcément le favori, machin. Et puis au fil des minutes et après l'égalisation, on a l'impression que ça allait un, ouais, petit peu mieux. Je ne dis pas qu'il survole. Hein.
Puis si tu veux, si par exemple tu veux une petite astuce, tu prends une feuille, tu prends un stylo, et tu écris les 7 joueurs qui manquent à Nice, oui, et tu la distribues aux joueurs d'Auxerre, tu leur dis bon ben voilà ce que ça aurait pu être.
Ouais, c'est ça, ça aurait pu être bien plus compliqué. Déjà que ce n'est pas vraiment simple face à cette équipe niçoise remaniée de main de maître par Franck Haise qui rentre d'entrée dans son nouveau rôle de coach niçois. On lui a dit, tiens, tu viens d'arriver, on va te mettre un petit casse-tête. Ça va, ouais.
Petit défi d'entrée.
On va voir ce que tu veux.
Après,
ce que tu
lui, il le voyait autrement. Il se disait, bah, moi, j'ai pas de choix à faire. C'est plus simple pour moi, j'ai pas de choix.
Tu vas pouvoir étudier ton organisation avec des joueurs totalement différents.
Voilà, à toi d'en faire. Débrouille-toi maintenant, t'as signé, hein, c'est comme ça. Avec le coup franc à suivre.
Un bon coup franc pour les Auxerrois.
Un bon coup franc, légèrement décalé sur le côté droit. Évidemment, il y a Perrin qui n'est pas loin. Rabelloson qui a pris le ballon. Ce sera sans doute un des deux. C'est plus un. Alors, c'est soit pour un droitier si on veut mettre le ballon à hauteur du point de pénalty ou entre le pénalty et les 5,50 m. Ou bien, voilà, le problème c'est qu'avant on avait Hein, on avait le pied gauche de Hein. Là, on n'a plus vraiment de pied gauche, on n'a que des pieds droits quasiment. Donc ça va sans doute être un ballon qui va revenir le mieux. Ce serait comme on dit souvent au coach, il vaut mieux le tirer entre le point de pénalty et les 5,50 m, ouais, pour que le gardien ne puisse pas faire grand chose. Est-ce que les Auxerrois vont en être capables? Ça, c'est un autre sujet. En tous les cas, ce sera soit Rabelloson, soit Perrin, à moins qu'il tente une frappe directe, peut-être une combinaison. Rabelloson, non, c'est largement au-dessus. Ouais. On s'est envolé.
On peut appeler ça du gaspillage.
Ah, voilà, complètement. Elle est même pas cadrée. Coach, en principe, ce que tu leur dis aux gars, c'est cadré au moins. Cadré, même si oui, le cadré.
Tu leur rajoutes avec beaucoup de malice. Au moins, il y aura une chance.
Voilà, c'est ça. Sur un malentendu. Mais non, Boulka, il n'a pas été franchement inquiété. Hein, le portier niçois, il s'est un peu détendu, histoire de dire, pour se dégourdir les fourmis peut-être qu'il a dans les bras. Mais en tous les cas, on ne peut pas dire qu'il était très inquiet sur cette tentative de Rabelloson qui est passée largement au-dessus. Et les Niçois peuvent repartir. Une nouvelle fois, Joly qui est bien seul au monde, hein, là-bas. Il est entre eux. C'est quand même bizarre qu'on n'ait pas cherché
à ajuster ce
problème-là. Hein.
Ouais, c'est difficilement compréhensible parce qu'on l'a dit, hein, en première période, c'est de là que sont venues quasiment toutes les attaques niçoises. Donc,
avec Brahimi, il a fort à faire. Hein,
et la Borde aussi qui vient des fois sur le côté. Voilà. Ouais.
Sur les côtés, systématiquement, il est entre deux. Alors, soit il va sur un, soit il va sur l'autre. Et évidemment, il est toujours pris un peu entre deux eaux. Et c'est compliqué de défendre sereinement dans de telles conditions. Car t'es soit en train de reculer, donc c'est compliqué. Soit t'es obligé d'avancer pour te rapprocher de l'autre adversaire qui est forcément à quelques mètres de toi. Et en tous les cas, dans les deux cas, ça met le défenseur au cerveau en difficulté. Les Niçois toujours en possession de cette balle après 59 minutes de jeu. Un partout. Chaud, hein, ouvert de score pour Nice, alors que Rabelloson a égalisé pour la JOCR. Ce ballon dans la profondeur, non, ça va être pour Léon, tranquille, c'était bien, bien trop profond. Guessant s'était précipité, mais pas de grande inquiétude pour le portier auxerrois qui peut relancer sur Rabelloson. Et voilà, le problème, il est là, coach, c'est que tout le monde est arrêté. C'est pas comme ça qu'on va trouver des solutions.
Et puis cette équipe d'Auxerre, j'essaie, parce que c'est pas facile à la télé de voir un petit peu la distance entre les lignes, entre les joueurs, la distance de marquage. Je vois quand même une équipe assez éparpillée. Ça fait pas bloc. Je la trouve pas, même visuellement, je la trouve pas très solide. Mais bon, et je souhaite me tromper pour les Auxerrois.
Ouais, on va voir si ça bouge, en tout cas pour les Auxerrois. Allez, le temps, le score, Fred.
59, allez, 60, l'heure de jeu à la Baie des Champs. Un partout entre Auxerre et Nice. Chaud pour Nice, Rabelloson pour Auxerre.
Il est 16h16 sur AMC. On revient dans quelques instants dans l'intégrale foot avec Coach Courbis pour la suite de cette Auxerre-Nice. Et puis on vous présentera aussi les trois affiches qui vous attendent à 17h dans le multiplex. A tout de suite sur AMC.
RMC Intégral Foot.
Flora Messi.
16h19, on est de retour avec Coach Courbis. Le bon coup franc pour les Niçois face à Auxerre, Fred Joly.
Ah, juste à l'entrée de la surface de réparation. Et pour le coup, là, il y a un gaucher, il y a la Borde. La frappe de la Borde, c'est cadré. Les deux points de Léon pour éloigner le danger. On s'en sort difficilement, hein, du côté de la JOCR. Ça va revenir dans les pieds niçois. C'était suite à une photo, le ballon, une nouvelle fois, les Joubal tranquillement. Voilà, ça c'est bien, c'est remis sur Joly, peut-être l'ouverture. Oh là là, c'est complètement manqué, c'est dommage. Il y avait l'appel,
oui, il y avait du monde en Perrin, plus, qui s'est projeté
là. Quand on voit cette action, on est encore en deuxième division là.
Ah ouais, c'est ça. Ah non, mais voilà, à la limite, tu sais, tu vois qu'il y a Perrin qui part, ils sont deux à partir. Tu t'appliques, tu mets dans la profondeur, tu fais quelque chose.
Ça fait but pour Nice.
Nice.
Oh, pff, boules quand même.
Ouais, surtout que là, c'était pas loin. Il y a eu cette frappe très, très, très surpuissante qui a terminé dans le petit filet droit de Léon. Ce sera, alors qu'il y a un joueur qui reste au sol. C'est Joubal. Il a pris un coup de genou, me semble-t-il. Joubal qui reste au sol alors qu'il va y avoir du changement du côté de l'OGC Nice. Avec l'entrée de Lautamba, me semble-t-il. Deux entrées sont à prévoir du côté de l'OGC Nice. Lautamba, ça c'est sûr. Et l'autre joueur, ce serait bien Bouanani. Voilà, les deux joueurs qui vont faire leur entrée sur la pelouse du stade Abbé Deschamps.
2 kilomètres pour les nanas.
Il suit coach, il a un œil. C'est pas contre toi, Fred. Il a un œil sur le Tour de France Femmes en ce moment.
Oui. Excuse-moi, mais il est passionnant. Hein.
Il reste, on est dans la dernière étape, évidemment, avec l'ascension de l'Alpe d'Huez, notamment pour terminer. Il reste les 63 km à peu près dans ce Tour de France Femmes.
10 qui sont en moins d'une minute, c'est quand même très
exactement,
rare.
Exactement, exactement. La situation, c'est il y a des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coureuses en tête, un premier groupe, et puis à 40 secondes derrière, 8 autres coureuses, dont notamment le maillot à pois, Justine Guéqui. Hier, voilà, pas de Françaises qui ont été lâchées pour le moment dans ces groupes de tête. On vous fera le point évidemment régulièrement parce que c'est très serré aussi au classement général. Voilà, on retourne en Ligue 1 avec toi, Fred, tout en ayant un œil vers l'Alpe d'Huez avec le changement que tu annonçais pour les Niçois.
Oui, exactement. Le changement, le double changement avec l'entrée.
Ils ont fait rentrer un grimpeur. Ah non, merde, je me trompe de sport.
C'est ça. Je sais pas si on peut rentrer un grimpeur, mais en tous les cas, il faut entrer Bouanani à la place de Chaud qui avait semblé légèrement touché sur l'action qui a amené le coup franc tout à l'heure pour la JOCR. Et puis la sortie de la board qui a été remplacée par Lautamba. Voilà les deux changements du côté de l'OGC Nice. Ça, c'était bien prolongé. Allez, Sinayoko, il faut se retourner. Ah, il a cherché à rejouer avec Ado Onayewu. Ah, c'est n'importe quoi. Ado Onayewu, il a voulu faire une passe, mais ça sentait entre la passe et le désespoir, coach. Hein.
Ouais, ah, ouais. Ben oui, là, c'est sincèrement.
On sait pas trop, là, ouais.
Pour le féliciter, il fallait être hypocrite. Hein.
Allez, le temps, le score, Fred.
65 minutes de jeu, un partout entre la JOCR et l'OGC Nice. Chaud pour Nice, Rabelson pour Auxerre.
Et la Ligue 1 est bel et bien de retour, hein, et ça va enchaîner juste derrière. Désormais, c'est le rendez-vous du dimanche à 17h. Le multiplex avec trois affiches au programme, Montpellier-Strasbourg, Angers-Lens et Toulouse-Nantes. On va vous présenter rapidement ces trois affiches et direction Montpellier d'abord avec Julien Landry. Salut Julien.
Salut Flora, salut coach, salut à tous.
Salut Julien.
Alors on va rappeler, toujours aucune recrue pour les Montpelliérains qui s'avancent sans certitude face à une équipe de Strasbourg qui a tout changé ou presque, à commencer par son entraîneur.
Exactement, 15e saison en Ligue 1 pour le MHSC d'affilée, et c'est la première fois de mon histoire que ça arrive où j'ai la même équipe qui a fini la journée et qui redémarre la journée suivante. C'est la 38e journée.
On t'en rassure, ça n'a pas dû arriver souvent.
Non, c'est même c'est exceptionnel, coach. C'est la première fois que Laurent Nicolas ne fait aucun recrutement à l'intersaison, évidemment impacté par l'époque, le transfert, les droits télé qui ont impacté évidemment les finances montpelliéraines avec quasiment 20 millions de manques. Donc on repart avec le même effectif, et tant qu'il n'y aura aucune vente au mercato d'été, il n'y aura aucune recrue côté MHSC. Alors quelques joueurs pourraient partir. On va notamment célébrer Joris Chautard cet après-midi, vice-champion olympique qui devrait être titularisé pour la première fois de la saison, retour en début de semaine, titularisé au milieu de terrain, mais ça pourrait être l'un des derniers matchs de Joris Chautard. Peut-être Moussa Tamari, quelques joueurs pourraient partir. On annonce évidemment le retour peut-être d'Andy Delors, mais voilà, il va falloir évidemment vendre des joueurs avant d'en recruter. Et tu l'as dit, Flora, côté Strasbourgeois, bah oui, c'est le grand chambardement. 7 recrues à l'intersaison, un coach licencié lors des préparations, Patrick Vira remplacé par Liam Rossenor, une match de préparation catastrophique, 2 matchs nuls, seulement 6 et 6 défaites, aucune victoire. Strasbourg, comme vous le rappelle, est propriétaire par Chelsea avec une volonté de faire du trading, beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs, et c'est vrai qu'on ne sait pas trop dans quel état débarque Strasbourg avec un nouveau gardien, Carl Johan Johnson en provenance de Bordeaux, qui sera titularisé dans les cages cet après-midi. Mais oui, une équipe, nous, new look contre une équipe qu'on a l'habitude de voir, ça nous promet beaucoup d'incertitudes cet après-midi.
Ouais, effectivement, coach, comment tu les vois, ces Montpellier dans cette nouvelle saison de Ligue 1 là?
Écoute, je regarde des deux côtés. Alors c'est vrai qu'il n'y a aucune recrue, donc aucun renfort, mais il n'y a pas quand même de départ important. Donc cette équipe et cet effectif, s'ils arrivent à trouver des solutions sur le plan financier, ben c'est un effectif qui doit pouvoir faire une saison tranquille en milieu du tableau. Donc je ne les vois pas dans les équipes et dans les clubs et dans les effectifs les plus inquiets.
Ouais, pas en danger en tout cas. Merci Julien, on te retrouve tout à l'heure, Montpellier-Strasbourg.
Avec plaisir.
À 17h donc dans le multiplex, tout comme Angers-Lens. Salut Pierre Thévenet.
Salut Florent, salut coach, salut à tous.
J'en profite pour vous dire qu'il y a toujours un partout en Ligue 1 en ce moment entre Auxerre et Nice. Pierre, il y a beaucoup de curiosité autour de ce Lens New Look avec à sa tête un certain Will Steele pour succéder à Francaise.
Le poteau niçois, je sais pas si
le
Léon.
Le poteau ou le gardien?
Un peu les deux, je crois. Je crois que Léon la touche légèrement et la met sur son poteau. C'était une tête niçoise et franchement, c'était plutôt bien vu. Léon se détend, il la touche. Je sais pas s'il la touche.
Non, il n'y avait pas hors-jeu au début, je pense qu'il y a peut-être hors-jeu, ouais.
Le gardien l'a touché, c'est le gardien qui l'a mis sur le poteau. Ouais, c'est ça, il la touche légèrement. Et bon, il y avait hors-jeu, en tous les cas, mais enfin, ça rassure quand on est gardien de sortir ce type de parade.
Ah, oui, ça c'est clair, ça va faire du bien aux Auxerrois. On tente de te voir, évidemment, dès qu'il se passe quelque chose. Fred, on est avec Pierre Thévenet pour parler de ce Angers-Lens qui vous attend à 17h dans le multiplex avec, je le disais, ces Lensois emmenés désormais par Will Steele. Hein.
Exactement. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que Will Steele va s'appuyer sur quasiment la même équipe que celle qu'avait Francaise l'an passé.
La même organisation aussi.
La même organisation, exactement. On attendait. Et ben, c'est ça la question, coach. Non, mais on attendait peut-être un petit peu de bouleversement dans l'équipe. Il y a certes Wesley Saïd qui est parti, notamment. Il y a Salis Abdoul Samed qui a été mis au placard par Will Steele. Mais sinon, je peux vous donner la compo rapidement. On a Brice Samba dans les cages. La défense à trois. Medina, Danso, Gradit, on la connaît. Ruben Aguilar à droite. Joaner Chavez, l'Équateur, qui était déjà là l'année dernière et titulaire à gauche. Nampalis Mendy, Adrien Thomasson dans l'axe et puis Fulgini, Sotoka et Wesley Saïd. Donc du grand classique côté Lensois. Will Steele l'a dit, hein, qu'il voulait s'appuyer sur ce qui avait marché l'année dernière.
Du classique quand même avec un Thomasson dans un rôle plutôt de 6-8 que de 10.
Exactement, mais parce qu'il y a plus grand monde sur le banc au milieu de terrain, donc on doit s'adapter un petit peu à voir si Mendy sera un peu plus bas avec Fulgini et Thomasson devant lui. On va voir exactement comment ça s'organise sur le terrain.
Une équipe quand tu nous la lis là. C'est une équipe intéressante quand même.
Bien sûr. Et pour revenir sur ce milieu de terrain, donc Spearings et Abdoul Samed ont été mis au placard, ont été demandés à partir de la part de Will Steele. Et en plus, Nil El-Ainaoui est toujours gêné par son genou. Donc voilà, on doit faire un petit peu avec ce qu'on a sous la main côté Will Steele.
Ouais, on verra ce que ça va donner parce qu'on est quand même curieux de voir ce que peut proposer ce Lens version Will Steele. Merci beaucoup Pierre, à tout à l'heure.
Salut Pierre.
La dernière affiche de ce multiplex, Toulouse-Nantes avec Romain Amalric. Salut Romain.
Flora, salut coach, bonjour à tous.
Salut Romain.
Toulouse-Nantes ou Nantes-Toulouse plutôt, c'était déjà le match d'ouverture des deux équipes la saison dernière et pour le TFC, cette année il va surtout falloir faire sans d'Alingra. Hein.
Ouais, Dalingra, le buteur toulousain qui est parti donc du côté de Bologne en Italie lors du mercato. D'ailleurs, c'est vrai que du côté du TFC avec Damien Comoli et son recrutement de data, on est toujours habitué à avoir des mercato où ça bouge beaucoup pendant l'intersaison. Là, c'est vrai que ça a été assez stable. Il y a eu beaucoup de départs, c'est vrai, avec Dalingra notamment. Steen Spearings qui était un des maîtres au milieu de terrain qui est reparti en prêt du côté de Lens. Il y a eu le départ de Michael Dessler, de Moussa Diarra, Ibrahim Sissoko a été prêté, Yanis Begraoui est parti également, Christian Mawissa aussi, ça c'était il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, est parti du côté de Monaco, c'est un grand espoir en défense du côté du TFC. Et dans le recrutement, il y a eu surtout des défenseurs avec Charlie Cresswell qui sera titulaire cet après-midi, jeune défenseur anglais qui vient de Leeds. Il y a Mark McKenzie qui est un américain qui a joué du côté de la Belgique, qui a été recruté dans la semaine. Et puis l'autre recrutement, c'est le champion du monde 2018, Djibril Sidibé, joueur d'expérience. Alors on n'est pas habitué dans les recrutements de data à avoir ce style de joueur là, mais il vient apporter son expérience à cet effectif du TFC. Mais par contre, pas de recrue offensive. Alors il y a une petite inquiétude chez les supporters, même s'il y a encore du monde. Il y a Bouclet qui est toujours là, il y a Anbo qui est là également, et puis on espère que Franck Magri va mettre des buts cette saison. Mais voilà, le recrutement du TFC, le TFC qui veut être, allez, qui veut retrouver la forteresse au stadium, parce que l'an dernier, seulement 3 victoires à domicile à Toulouse. C'est très peu pour une équipe qui termine dans le milieu de tableau et qui a joué la Coupe d'Europe. Ça s'est bien passé en Coupe d'Europe. Ça s'est un peu moins bien passé en championnat. Et pourtant, il y a de l'effervescence ici au stadium. Il y a 16 000 abonnés cette année. C'est un record absolu. Il y aura encore 25 000 spectateurs cet après-midi au stadium. Voilà. Il y a le TEF, le vent dans le dos pour l'instant avec son public, mais il va falloir gagner aussi à domicile.
Merci beaucoup Romain. On se retrouve tout à l'heure évidemment pour le multiplex. On vous rappelle l'horaire, 17h, avec les trois affiches: Montpellier, Strasbourg, Angers, Lens et donc Toulouse, Nantes, sur lequel on va parier tout de suite sur RMC.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Il se fait désirer, Johan Bredov.
Je ne garde jamais sans mon jingle.
C'est ça, tu refuses de parler si tu n'as pas le jingle. Alors les cotes autour de ce Toulouse-Nantes.
Toulouse qui est favori, hein. C'est pour doubler la mise, la victoire toulousaine. 3,35 le match nul, 3,80 la victoire de Nantes. Compliqué à pronostiquer cette rencontre. Romain a parlé des stades de Toulouse à domicile la saison dernière. Moi, je vous propose de vous couvrir déjà avec Toulouse qui ne perd pas, les deux équipes qui marquent, ça permet de doubler la mise également. Ou alors, coach, un pari qui pourrait te plaire, c'est le 1 partout, le 2-1 ou le 1-2, et ça c'est coté à 2,95. Qu'est-ce que t'en penses?
Pourquoi pas, mais bon, je suis quand même surpris. Donc les Nantais pratiquement à 4,
3,80,
oui. Bon, ça tu m'expliqueras le pourquoi. Moi je vois un match très serré, je vois plutôt un match nul. Bon,
3,35.
Ouais, bon, et je partirai plutôt là-dessus. Je m'amuse avec un match nul. Si je veux faire un deuxième ticket, Toulouse qui perd pas avec les deux équipes qui marquent, mais comme ça va être très bien payé, je pars plutôt à Nantes qui perd pas avec les deux équipes qui marquent.
Ah bah oui, forcément, Nantes qui perd pas, déjà c'est 1,78, et si tu rajoutes les deux équipes qui marquent, la cote qui passe à 2,80.
Tu prends, coach?
Oui.
Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Johan. Tous les paris à retrouver sur le site rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. Oh.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Toulouse-Nantes a retrouvé des 17h dans le multiplex de la Ligue 1 avec Montpellier-Strasbourg et Angers-Lens. À suivre évidemment tout à l'heure avec Benoît Boutron et Sébastien Piocel. Nous, on suit toujours cette Auxerre-Nice, Fred Joly, qui a du mal à se décompter dans cette seconde période.
Exactement, un but partout entre Auxerre et Nice. Et il y aura un coup franc à suivre pour la JO après cette faute sur Paul Joly qui a légèrement été accroché. On est assez loin du but niçois. Ça va être un ballon qui va être emmené dans la surface de réparation par un pied droit. Et évidemment, ce sera soit Ravelosson, soit Perrin pour amener cette balle dans la surface de réparation. Le petit coup de bombe magique pour l'arbitre de la rencontre, indiquer où va se tirer le coup franc et où va se placer le défenseur. On est tous habitués maintenant à la petite bombe qui va bien. Allez, pour Perrin, faut vraiment s'appliquer, chercher la tête de Jouba. On sait qu'il est très bon, et puis lui, un changement du côté d'Auxerre, puisque Baird est sorti, il a été remplacé par Florian Haillé, également bon joueur de la tête, ce Florian Haillé, qui va sans doute tenter de donner une solution. Voilà, finalement c'est dégagé, c'est sorti par une tête niçoise, obligé de repasser complètement derrière du côté de la JOCR. Ah, c'est pas très bien tiré, coach, ce type de coup franc. Il faut vraiment les mettre
pas bien tiré
dans le paquet,
du tout, parce que ça aurait pu et ça aurait dû être dangereux.
Ouais, ça aurait dû être déjà trouver au moins un coéquipier, hein, même si c'est pas forcément évident de faire quelque chose. Mais tout de même, avec Ado Onayewu qui récupère cette balle
à droite
au Bouzou, voilà, c'était bien joué sur Perrin. Perrin, il y a l'appel de Joly. Allez, Joly, il sait les faire, les centres, il sait les faire. Oh là, pff,
si oh, je dis ça. T'as bien fait de le dire.
Ah, là, il nous a blessé un supporter au cerveau.
Ah, le but, il y en a un qui a pris cher.
On appelle ça un centre dangereux.
Mais pour dangereux,
pas pour, ouais, c'est ça, pas pour le gardien.
Le ballon a terminé dans Lyon derrière. Tout va bien pour la JOCR. Là, d'habitude, il les fait beaucoup mieux que ça. Heureusement pour la JOCR, mais là, il s'est complètement...
Là, je pense qu'il a fait tellement d'efforts pour défendre, pour essayer de défendre dans ce match, que là, du coup, il n'y a peut-être plus d'essence. Là.
Ah, bah, entre la borde et ouais. Brahimi, il va bien dormir ce soir, le petit Joly. Hein. Il est bien fatigué, si tout va bien. Lénis soit toujours en possession de cette balle, un quart d'heure encore à jouer à peine dans cette rencontre. Un partout entre Auxerre et Nice. La tête de Ocho s'est récupérée par les Auxerrois. Et par Ado Onayewu, il y a l'appel, mais ça n'ira pas vers Ovuzou. Ovuzou, il court comme un beau diable pour tenter de revenir sur le niçois. Débordement à Pelnard. Pelnard qui s'improvise plus ou moins au latéral gauche. Alors quand ça part pas trop vite, ça peut aller, mais moi j'ai peur que s'il y a un joueur, s'il venait avoir un joueur niçois qui est un petit peu plus de jambes, ça soit compliqué pour Pelnard. Mais pour l'instant, il est plutôt bien intervenu. Corner, coach, alors sur ce genre de corner, les niçois vont à n'en pas douter, tenter de mettre cette balle dans la surface de réparation. C'est le coup à jouer, évidemment. Il faut tenter maintenant. Le ballon, la tête, c'était pas mal vu pour cette balle au premier poteau qui a finalement été, qui n'a pas été coupée comme le souhaitaient les Niçois avec la récupération. Un Paul Joly qui est monté d'un cran. Oh là 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 là, c'est complètement manqué ça.
S'il y a un but là-dessus, tu te mets. Un coup de marteau sur la tête.
Ah, mais surtout que Paul Joly, là, il était quasiment milieu gauche, alors qu'il est latéral droit. Alors déjà que quand il est à son poste de latéral droit, c'est compliqué parce que souvent il a deux joueurs à prendre. Si en plus il est même plus latéral droit, je sais pas où on va là. Ah oui, ça va être compliqué.
Il va falloir faire rentrer un gardien de but à arrière droit.
Ah oui, il va falloir quelque chose parce que là, je sais pas pourquoi il s'est retrouvé quasi milieu gauche avec le corner à suivre. Alors, il semble. Alors, est-ce qu'il est vraiment remonté d'un cran? J'ai du mal à comprendre le schéma que nous propose
la JOCR. Son positionnement, ouais.
Ah, il va y avoir un nouveau changement hein, avec Orakpo qui sort du côté de. Non, qui va entrer, pardon, du côté de l'OGC Nice. Et un changement.
C'est Jonathan Clauss. Ah non, c'est Gaëtan Laborde qui sort.
C'est Laborde. Non, Laborde est sorti tout à l'heure.
Non, il vient de sortir Gaëtan Laborde là.
Oui, c'est Laborde qui sort, exactement. Et l'entrée de Okakpo, voilà, le corner à suivre. Il y a quand même trois Niçois en dehors de la surface de réparation. On se méfie quand même. On sait tout ce grand poteau, ça va être récupéré de l'autre côté complètement avec Dante qui sait pas trop quoi faire de cette balle. Voilà, il préfère glisser derrière. Les Auxerrois qui montent au Pelnard, il s'est pris un petit peu les pieds dans les pieds du Niçois.
Ça sera, il y a la faute.
Oui, il y a faute de Bouanani qui a mis le pied sur la cheville de Pelnard. Le coup franc a été sifflé, coup franc à suivre pour la JOCR qui aura l'occasion de se dégager. Allez, 10 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre, un partout entre la JOCR et l'OGC Nice, puisque Nice avait ouvert le score par Chaud à la 22e, et puis Ramelosson, ce superbe but bien emmené, cette belle passe de Paul Joly avait trouvé la faille pour permettre au bon Guignon d'égaliser avec cette tête. Finalement, ce sera dégagé par l'OGC Nice, un partout entre Auxerre et Nice.
Ouais, on revient évidemment très vite à la Baie des Champs, on fait un détour par la Vuelta avec Johan Bredov. On est encore allé à 70 km à peu près de l'arrivée, où on en est
73, cette étape de 4 plat, hein. km exactement, une étape de plat, même si ça grimpe un peu hein, quand même pour cette Vuelta. Par exemple, au cumulé, il y aura quand même 8000 mètres de dénivelé positif de plus que le Tour de France, 15000 mètres de plus que le Giro quand même, donc ça va grimper fort pour ce Tour d'Espagne, le 79e de l'histoire. Il y a deux hommes en tête, toujours les mêmes, Ibon Ruiz et Luis Angel Mate, qui possèdent 2 minutes et 24 secondes d'avance sur le peloton. On a le maillot rouge porté par Brandon McNulty, l'américain vainqueur du chrono hier, mais qui est menacé, ce maillot rouge, par un certain Wout van Aert qui est troisième du général à 3 secondes. Il y a des bonifications à aller chercher en cette fin d'étape, et Wout van Aert fait partie des favoris pour aller remporter cette deuxième étape tout à l'heure. Un sprint hyper difficile parce qu'à 900 mètres de l'arrivée, on aura une pente à 9% de moyenne. Faudrait être costaud pour s'imposer dans les rues d'Ourem. Réponse dans un peu moins d'une heure maintenant, dans un peu plus d'une heure même, 73 km encore à part.
Merci Johan, et puis vous dire aussi que le Tour de France Dames est dans sa dernière étape aujourd'hui, étape incroyable entre le Grand Bornand et l'Alpe d'Huez. Les coureuses sont en ce moment en train de grimper le col du Glandon avec le maillot jaune qui est pour le moment à une minute de la tête de course. Rien n'est joué donc pour la victoire finale, il n'y a pas de Française pour le moment dans les échappées, dans les premiers groupes. Il est 16h38 sur AMC, on marque une dernière pause et puis on revient juste après pour la fin du match entre Auxerre et Nice, un partout toujours entre les deux équipes. À tout de suite sur AMC.
RMC Intégral Foot.
Flora Messi. Il est 16h41. Merci d'être avec nous dans l'Intégral Foot sur RMC avec Coach Courbis. On suit la fin de match entre Auxerre et Nice. Avant de donner la main à Benoît Boutron, Sébastien Piocel pour le multi. C'est rendez-vous de 17h dorénavant avec trois affiches au programme que vous allez suivre. Montpellier, Strasbourg, Angers-Lens et Toulouse-Nantes. Mais en attendant, on retourne à la Baie des Champs. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire, Fred Joly.
Ouais, il reste 5 minutes à jouer effectivement. Un partout entre la JOCR.
Il y a une situation un peu litigieuse là. Raconte-nous dans la surface auxerroise.
Oui, alors il y a eu un ballon que Joubal a laissé pour Donovan Léon pour que le gardien s'en empare tranquillement. Et puis il y a Rocpo qui est arrivé comme une fusée, qui a légèrement touché Léon et qui s'est roulé par terre comme s'il y avait eu vraiment une faute. L'arbitre n'a absolument pas discuté, absolument pas cherché à comprendre. Il n'y avait pas faute pour lui. C'est juste que l'attaquant niçois est venu buter sur le bras du gardien. Il n'y avait pas autre chose à siffler qu'une remise en jeu, tout simplement pour les Auxerrois qui sont en possession du ballon avec cette balle décalée sur le côté. Sinayoko, allez Sinayoko comme il sait le faire. Ouais, le repique, il va frapper. Oh, il a frappé. Ouh. Elle est parvenue, elle est montée, mais on s'attendait à ce qu'elle tourne et qu'elle aille dans la lucarne opposée. Eh bien non, pas du tout. Elle a filé direct dans la tribune derrière le but et l'entrée.
Il frappe au coup de pied alors que le geste technique, c'est une frappe enveloppée pour essayer de trouver la lucarne. Là, au compteur, tu t'éloignes de la lucarne.
C'est ça. C'est pour ça que le ballon est parti complètement, a pris une amplitude opposée, puisqu'il est parti, comme tu dis, d'un coup de pied extérieur. Ça ne pouvait pas du tout aller pour cette frappe, alors qu'il va y avoir une entrée du côté de Nice avec Camara qui va faire son entrée. Et puis, l'entrée du numéro 21 du côté d'Auxerre, Lasso Koulibaly, l'une des recrues auxerroises, attaquant ivoirien qui nous arrive du Danemark, 21 ans. Il remplace Perrin dans l'entrejeu. Et puis du côté de l'OGC Nice, la sortie de Ndombele qu'on n'a pas vraiment beaucoup vu dans cette rencontre. Il est remplacé par
Isiaka. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu quand même. On n'en a pas beaucoup parlé. On n'a pas vu du tout.
Je pensais qu'il était derrière tribune.
Ouais, moi aussi. C'est fou ça quand même.
Mais le coach niçois disait que quand il était à Galatasaray la saison dernière, prêté, me semble-t-il, Galatasaray, il avait joué 6 matchs titulaires sur toute la saison.
Ouais.
C'est pas au coach que je vais l'apprendre. 6 matchs titulaires sur une saison complète, t'as pas vraiment le rythme d'un championnat. Hein.
Non. Ouais. Non.
Ça c'est sûr, mais il faut quand même aller le trouver ce joueur-là.
Ah oui, c'est
parce
ça.
Que, justement, pour le trouver, c'est pas facile.
Hein. Ouais, surtout qu'il a pas joué beaucoup, donc pour le trouver, il a fallu avoir les bonnes vidéos. avec ce ballon pour les Niçois. On est dans la surface, on est dans le camp au Serrois. Il reste 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Un ballon qui tourne de gauche à droite mais qui pour l'instant ne semble pas amener beaucoup de danger, puisque les Auxerrois, c'est bien joué, ont récupéré Aïe qui a pu glisser et il touche son premier ballon, Lasso Koulibaly. Il a été bousculé. Ce sera un coup franc à suivre. On est à hauteur de la ligne médiane alors qu'il y a un Auxerrois au sol. Là, ça va se relever, ça va aller du côté de Owuzu qui a pris semble-t-il un petit coup, mais qui va se relever. Et du côté d'Auxerre et de Joubal, on va pouvoir jouer ce coup franc à hauteur du rond central. On est bien loin du but de Bulka, le portier niçois. Cette balle, va falloir trouver déjà.
Ouais, j'ai l'impression que ça convient bien à tout le monde quand même là. Jusque là, ce match nul, on sent pas, coach, que ça peut s'emballer dans les dernières minutes. Là.
Ben, si tu veux, bon, les Niçois peuvent avoir des regrets d'avoir
en première période, notamment.
Auxerre, comme je le dis, je le répète, déjà de ne pas le perdre ce match et de terminer là un partout, c'est pas mal du tout.
Ouais, ça serait pas si mal que ça de commencer ce championnat de France de Ligue 1 par un nul. Alors, ce n'est qu'un nul, certes.
Ouais,
mais contre Nice, hein, donc c'est ça aussi qu'il faut se dire pour les Auxerrois. Hein.
C'est ça, exactement. De toute façon, tout ce qui est pris est toujours bon, hein, surtout quand on est un promu, qu'on sait que ça va être compliqué tout au long de la saison, les points grappillés par-ci par-là, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Eh bien, il faut les prendre, surtout avec un effectif qui, pour l'instant, n'est pas vraiment au complet. Les blessés, plus l'attente de nouvelles recrues pour compléter ce 11 auxerrois. Pour l'instant, on fait comme on peut du côté de Christophe Pélissier. La récupération, il y a peut-être une faute, ah oui, quand même. Il a bien pris le pied, il a bien volé, il est sur ce coup-là. Cette faute, alors ça partait pas d'un geste vraiment méchant de Boudaoui, mais quand même, il a pris le pied de l'attaquant auxerrois. Un partout, coach, il reste une minute à jouer. Dans ces cas-là, on fait quoi, comme disait Flora, on attend, on laisse venir, on se dit, ouais, un point, c'est pas si mal.
Qu'une minute parce qu'on il peut y avoir il peut y avoir 6 minutes de temps additionnel.
Il y a eu 2 minutes en première période, pourtant il y avait eu la super pause fraîcheur, mais on a eu 2 minutes. Là on va bien voir avec les 4-5 changements, il y a eu 4 ou 5 changements, donc évidemment là les sorties, ouais, il était close,
il y a beaucoup d'heures techniques,
ah,
bout de souffle. Dans cette fin de match aussi, là, on sent que les organismes, ça commence à tirer.
L'idée, elle était bonne, cette passe. Ouais, malheureusement, elle était mal dosée. Ouais, sinon, ça aurait pu être une attaque très, très, très dangereuse.
C'était pas mal, mais je crois que Klaus, il a plus trop grand chose dans les chaussettes à cette heure-ci. À mon avis, il a mis tout ce qui lui restait et il n'a pas pu récupérer cette balle. C'était un petit peu dommage. Mais les Niçois ont pu quand même récupérer ce ballon. Voilà, Klaus qui met le pied. Et qui voit le pied de Shinayoko. Shinayoko a un petit peu de mauvaise poids sur ce coup-là, quand même d'ici, on a bien vu que c'était son pied.
Tiens,
qui semblait.
À 6 minutes, je t'avais dit.
Ah, ouais. À 6 minutes. Ah oui, c'est, ouais, ouais. C'est vrai que les temps additionnels, ça devient. On devrait faire des paris sur le,
ouais,
le temps additionnel.
Mais on essaye avec coach à chaque fois, là, on se dit, tiens, combien il pourrait y avoir. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques joueurs, quelques petits actes, des joueurs blessés. Ou,
ah, mais 6 minutes.
Mais de là, mettre 6 minutes, ouais. Surtout pour un match de reprise comme ça, où là, on sent bien que les organismes, ça tire un peu.
À 5 minutes de la fin, il y a un coup franc dangereux, là.
Ah ouais, pour les Niçois.
Ouais. Évidemment, ça peut être un bon coup franc. Il y a Klaus qui s'est approché du ballon. Là, ils sont deux joueurs à venir sans doute donner des solutions. Buonanni également. Klaus ou Buonanni, le pied gauche de Buonanni ou le pied droit de Klaus. À voir. En tous les cas, on n'est que deux dans le mini-mur au Serrois. C'est tellement la demande de Donovan Léon qui ne veut pas plus de joueurs. Et on est par contre on est là, il y a un joueur qui est vraiment resté en retrait du côté de l'OGC Nice, sinon de Niçois sont à l'entrée de la surface de réparation. Voilà, ça sera pour Klaus, le oh là, c'est mal tiré. On peut pas plus mal le tirer, coach.
Bah pour le gardien, il est bien, il est content.
C'est très difficile de plus mal le tirer.
Franchement, plus mal le tirer, c'est
on peut se dire que c'est pas si mal, n'empêche coach de choisir cette zone entre la défense et le gardien, c'est juste que là c'est très mal mal ajusté forcément, mais
là c'est entre le gardien
et le gardien
et la barre transversale, ouais. Quoi, là,
après si tu veux, chacun ses idées, chacun ses goûts. Moi au niveau de la trajectoire, je préfère un gaucher qui tire qu'un droitier.
Ouais.
Ah oui, bon, en tous les cas, ça n'a pas fonctionné. Alors, il y a quelque chose. Non, il tombe pas.
Il se relève.
Oh, il n'a pas voulu tomber, hein, sur ce coup-là, Buonanni. Et il s'est relevé, il est resté sur ses appuis. Et Penlar a fait l'effort pour revenir, mettre une petite pichenette dans cette balle pour la mettre en corner, car il aurait pu avoir danger, hein, s'il avait réussi à conserver ce ballon.
Mais d'ailleurs, je sais pas si c'était pas mieux joué de se laisser tomber.
Oui, oui.
Ouais, pas sûr qu'il y aurait eu faute, quoi. C'est toujours pareil. En tout cas, il y a corner, là, c'est sûr.
Ah là, les corners jouent en deux. Attends, ça va revenir. Oh là là là. 28e poteau pour la tête de Dante.
Il faut que ça s'arrête là. Sur cette fin de match, on est quand même sur.
Là, disons une bonne douche, tu vois.
Ouais, voilà. On va rentrer bon tout le monde au vestiaire.
Un bon savon, là, c'est bon.
On va oublier tout ça, là.
Un sandwich et au lit, hein, parce que là.
Là, les erreurs techniques, quand même, dans cette fin de match, ça commence à être dur.
Ça commence à devenir compliqué. Très compliqué pour les.
On s'aperçoit qu'Auxerre est content du match nul.
Ah bah clairement.
Ils se disent après tout, on va se contenter de ça.
Après, quand on voit la façon dont sont tirés les coups de pied arrêtés côté niçois là dans cette fin de match, on n'a pas non plus l'impression qu'ils ont une envie débordante d'aller gagner ce match-là. Hein.
Ouais, disons qu'en tout cas, sur le plan technique.
Ouais, on ne s'est pas régalé.
Ça nous inquiète.
Ouais.
Ouais, effectivement. Alors c'est toujours dans les pieds des Niçois ce ballon. Alors qu'il reste 3 minutes à jouer sur les 6 minutes de temps additionnel, avec les Niçois en possession du ballon. Rosario, le défenseur par intérim de cette équipe niçoise, lui qui est habitué et donc on le rappelle, un milieu de terrain qui a pu trouver un coéquipier. C'est récupéré par Sow. Il y a peut-être une faute là quand même. Oui, quand même. Ouais, Yoko, là, il vient de prendre une petite bonne petite semelle.
Pour Auxerre.
Ouais,
on va profiter de la fin de match là, assez calme. On va aller faire un dernier point sur la Vuelta avec Johan Bredov, la deuxième étape.
Avec cette étape entre Cascais et Ourem, deux hommes en tête, Ibon Ruiz et Luis Andrel Maté qui possède toujours 2 minutes et 25 secondes d'avance sur le peloton. Il reste 66 km à parcourir avant l'arrivée donc à Ourem et à la première. Le premier succès qui devrait se disputer au sprint entre les grosses cuisses, notamment, pourquoi pas, une victoire de Brian Cotta.
But au cerveau. Oh, qu'il est beau ce but! Oh, ça part de très 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 loin. C'est dans la profondeur pour l'assaut, la recrue auxerroise, l'assaut Koulibaly qui d'une petite pichenette par-dessus le gardien niçois permet à la JOCR dans le temps additionnel, quasiment au bout du bout, de prendre l'avantage et de mener 2-1.
Tu te rends compte que ce but qui vaut 2 points?
Ah, c'est énorme. C'est un dégagement. Ah, ça part de Lyon, vous rendez compte. Lyon, passeur décisif.
Lyon qui dégage son camp et qui souhaite que l'arbitre aussi pour avoir ce match nul.
On est visionnaire quand même. On annonçait que c'était roulé.
D'ailleurs, il a vraiment pris son temps, tu vois, pour.
Ah ouais, c'est incroyable.
Pour donner cette dernière passe qui fait but.
En plus, il y a un problème, coach. Le gardien ne peut pas être passeur décisif quand même. On est un professionnel, non?
Eh, vas-y, regarde. Après, c'est très très bien joué. Hein. C'est vraiment, on sent que la défense niçoise, ça se fait surprendre là-dedans, qu'il regarde tout le monde en se disant qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est très bien joué de la part des Auxerrois.
Hein. Dante, on s'aperçoit que sur cette action-là, il est KO.
Ouais, c'est pas le seul, hein, d'ailleurs, ils sont tous en retard, les défenseurs niçois. Hein.
C'est incroyable.
Et la sortie du gardien, je la trouve maladroite.
Hein. Bon, bah, du coup, on va avoir une fin de match complètement folle parce que les niçois, ils vont vouloir attaquer.
Il y en a plus d'abord, il n'y a plus qu'une 30 secondes.
Ouais, là franchement, allez, il reste 30 secondes, c'est ça, à peine.
Alors, il y a un coup franc à venir, pour les niçois.
Il y a un coup franc pour les niçois. Alors, tout le monde va monter. Hein. Ah, c'est vrai que le gardien niçois, Marcin Bulka, franchement, il est en train de monter d'ailleurs. Il est en train de se dire allez, je vais me rattraper ma petite boulette, je vais vous mettre un petit but de la tête, vous allez voir. En tous les cas, il nous fait une sortie très hasardeuse. Cette longue balle de Léon.
On a une passe
D,
un gardien dans
incroyable,
un même match.
Incroyable, la passe décisive. La passe décisive de Noël Léon. Et puis surtout pour sa première apparition, l'assaut Koulibaly. Boum, la petite feinte, il a bien compris que.
Là, je préfère cette trajectoire de gaucher sur un coup franc placé ici.
Ah, surtout que ça peut venir couper au premier poteau.
Je pense que ça peut être beaucoup plus dangereux que tiré par un droitier.
Ah, ça va venir couper au premier poteau, elle va sans doute être puissante au premier poteau. Voilà la tête, non, finalement la tête, elle est aux serroises. Le gardien, allez, il faut récupérer le ballon et mettre une cacahuète à 100 mètres. Oh, ça passe au-dessus. Non, c'est large. C'est largement au-dessus. Et c'est fini. Les spectateurs aux serroises sont fous. Les remplacés sont sur la
pelouse. Il existe la victoire à 3 points, ma copine que je ne supporte pas. Là. Et il existe maintenant le but à 2 points.
Pas mal, hein. Ah, c'est exceptionnel.
Voilà,
c'est
une victoire aux Serroises en tout cas aujourd'hui face à Nice dans les tout derniers
deux points, le but.
Les 3 premiers points pour Christophe Pélissier et son équipe. Merci beaucoup Fred, tu t'es régalé à la Baie des Champs, là ça a vibré.
Ah bah les 3 dernières minutes surtout.
Ouais, c'est ça, exactement. Merci beaucoup Fred.
Merci, bonsoir tout le monde.
Merci mon coach.
Ben, merci à vous.
On se retrouve évidemment le week-end prochain. Vous allez continuer de suivre la Vuelta, le Tour de France Femmes aussi avec les ascensions à venir. Et puis évidemment, le multiplex à 17h de la Ligue 1 avec 3 affiches au programme. C'est tout de suite avec Benoît Boutron et Sébastien Piocelle sur RMC.
RMC Intégral Foot.